Vous êtes sur RTL.
La suite. Bonjour Yves.
J'atteste d'une forme d'exotisme lillois.
Effectivement.
Merci Julien. Bonne journée à toute l'équipe de Nos Petits Matins et bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur RTL. Notre pays a pour habitude d'expliquer qu'il a mis en place un patrimoine nucléaire, sans doute l'un des plus sûrs au monde. Personne de sérieux n'imagine l'avenir de nos énergies sans un appui du nucléaire, puisqu'il est là. Il n'empêche, tout doit être dit et j'ajouterai vu. Ce sera le cas ce soir sur M6 où l'extraordinaire série relatant de Tchernobyl va être diffusée. Je l'ai vue, elle est exceptionnelle. Où en est le site 35 ans après? Quelle vie pour Tchernobyl, la région, ses habitants et même sa faune? Nous ferons le point avec Sophie Jousselin à 7h15 et nous donnerons la parole au réalisateur du documentaire La bataille de Tchernobyl, qui est diffusée elle aussi ce soir après la série sur M6. Dans un registre plus calme, l'invité politique d'RTL est ce matin Gérard Larcher. Le président du Sénat répond aux questions d'Alba Ventura dès 7h40. Deux thèmes majeurs, vous l'imaginez bien. Quelles alliances pour la droite au régional et quels candidats pour 2022? On attend des réponses claires. Enfin, Didier Deschamps nous dit tout sur son équipe de France à 8h20. Ce sera au micro de Philippe Sanfourche. Nous sommes le jeudi 27 mai 2021. A tout de suite. Bonne journée à tous. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, la mise en place d'une ligne téléphonique pour dénoncer les délinquants.
Cette initiative, on la doit au maire de Rieux-la-Pape dans le Rhône, excédé par les violences dans sa commune. Il incite, y compris les parents, à dénoncer leurs enfants. Reportage à suivre. Nouvelle quarantaine pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Objectif, empêcher la propagation chez nous du variant indien. Y aura-t-il un pardon ou à minima des excuses de la France 27 ans après le génocide? Emmanuel Macron entame ce matin une visite hautement symbolique au Rwanda. Et puis il fête aujourd'hui ses 100 ans, le code de la route, et vous l'entendrez, les règles ont bien changé depuis 1921.
La politique avec vous Olivier Bost.
Et dans une longue interview, Emmanuel Macron pose son décor pour la présidentielle.
Vous nous expliquez tout cela dès la fin du journal.
RTL Matin.
Quand un maire en appelle à ses administrés pour tenter de régler le problème de la délinquance, à Rieux-la-Pape, près de Lyon, une ligne téléphonique sera bientôt mise en place pour inciter les habitants à dénoncer, de manière anonyme s'ils le souhaitent, des actes de malveillance dont ils seraient témoins, y compris lorsqu'il s'agit de leurs propres enfants. Une manière d'aider la police dans son travail alors que la commune est le théâtre ces dernières semaines d'une explosion de violence. Le maire LR Alexandre Vincent Day assume, il affirme être soutenu par le ministre de l'Intérieur. L'initiative sur place fait pourtant débat. Raphaël Vantard.
Les actes de violence des dernières semaines sont là, mais les habitants restent assez divisés quant à cette proposition du maire. Faut-il un numéro de téléphone communal pour donner des informations à la police? Sonia, 40 ans, n'y voit aucun inconvénient.
Si on veut être en sécurité dans notre commune, ben oui, il faut pouvoir faire remonter les informations, je pense que c'est une bonne chose.
Vous êtes prête en tant qu'habitant à le faire ou...
Ça me pose pas de problème.
Un sentiment qui n'est pas forcément partagé partout, notamment dans les quartiers les plus populaires de la ville. Sam, jeune homme, trouve que c'est une mesure qui divise la population.
Il y a besoin d'unité, il y a besoin de rapprochement et pour le coup, il n'y a rien de plus séparateur que d'appeler les gens à dénoncer leurs voisins. Ça peut qu'envenimer les choses selon moi.
Christophe vit à Rieux-la-Pape depuis des années. Il regarde sans aucun angélisme les actes de violence et le trafic de drogue très présent dans sa ville.
On a un climat qui est tendu. Il y a des forces de l'ordre. Je suppose qu'elles font leur boulot. Moi, je veux bien aider, signaler si ou ça ou témoigner si j'ai vu quelque chose. De là à être moi l'initiative de quelque chose, ça me semble un petit peu excessif.
En plus de ce numéro de téléphone, pour que les habitants donnent des informations sur les délinquants, le maire, les Républicains de Rieux-la-Pape, va renforcer les effectifs de police municipale avant l'été.
Le reportage de Raphaël Vantard à Rieux-la-Pape pour RTL. C'est dans ce contexte que les consultations reprendront aujourd'hui dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Une table ronde consacrée aux relations entre la police et la justice. Les syndicats des forces de l'ordre face à Éric Dupond-Moretti dans un climat qui s'annonce électrique. Le jeune homme d'origine serbe soupçonné d'avoir tué lundi à Hayange en Moselle sa compagne en pleine rue a été mis en examen et écroué hier, tandis que le gouvernement a lancé une mission d'inspection pour tenter de vérifier si des dysfonctionnements ont eu lieu dans ce dossier.
RTL, il est 7h03. Face au variant indien qui inquiète les autorités outre-Manche, la France décide de renforcer ses frontières.
Oui, dès lundi, les voyageurs qui arriveront du Royaume-Uni, y compris les Français, devront présenter un test PCR de moins de 36 heures et se plier à un isolement obligatoire de 7 jours. 3000 cas déjà déclarés chez nos voisins britanniques. Moins d'une centaine en France. Alors que nos indicateurs sont chaque jour plus encourageants, pas question donc de laisser ce variant indien ruiner les efforts, d'autant qu'on sait encore peu de choses sur lui, Sophie Orange.
Eh bien en fait, fait, il est considéré, si vous voulez, comme un variant préoccupant depuis le 12 mai, au même titre que les variants anglais, sud-africains ou brésiliens. C'est surtout le soulignage numéro 2 qui est présent en France, à l'origine de 29 des 38 épisodes recensés. Cette souche est également majoritaire au Royaume-Uni. Au total, selon les dernières données qui datent de la semaine dernière, 80 cas de variants indiens ont été recensés dans 9 régions en France, dont 3 foyers familiaux sans rapport avec un voyage en Inde. Un nombre sans doute sous-estimé qui ne fait qu'augmenter depuis quelques semaines. Selon Santé publique France, tout porte à croire qu'il est plus transmissible que les autres variants, notamment l'anglais. Tous les voyageurs en provenance d'Inde sont testés et placés en quarantaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que les vaccins Pfizer et AstraZeneca restent efficaces. Conclusion d'une étude réalisée au Royaume-Uni.
Sophie Orange, un coup de pouce pour les profs et notamment les jeunes profs en début de carrière. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, annonce 700 millions d'euros d'aide destinée en partie à revaloriser leur rémunération. Insuffisant, selon la responsable du SNES-FSU, premier syndicat du secondaire, qui dénonce, je cite, des mesurettes.
Tiens, tiens. C'est un discours très attendu que prononcera dans quelques heures Emmanuel Macron à Kigali devant le mémorial du génocide rwandais.
27 ans après le massacre des Tutsis, qui a fait près d'un million de victimes, le chef de l'État a pour objectif de normaliser enfin les relations entre la France et le Rwanda. Écrire une nouvelle page, c'est l'ambition de l'Élysée qui promet de regarder en face le rôle de la France dans cette tragédie. Emmanuel Macron ira-t-il jusqu'à s'excuser ? Il n'est pourtant pas le premier chef d'État français à se rendre sur place, Brice Dugénie.
Oui, en 2010, Nicolas Sarkozy avait évoqué ce sujet au cours d'une visite à Kigali.
Ce qui s'est passé ici oblige la communauté internationale, dont la France, à réfléchir à ses erreurs.
Reconnaître ses erreurs ne fut pas suffisant pour normaliser les relations entre les deux pays. Tout à l'heure, ce sera une première. Un président français seul, debout devant le mémorial du génocide. La scénographie a été travaillée. Le président français est très attendu. Il le sait, il s'est préparé. Sa venue peut marquer la fin de près de 3 décennies de relations tendues entre le Rwanda et la France. Emmanuel Macron viendrait ainsi apaiser là où tous ses prédécesseurs ont échoué par négligence ou par conviction. La France retrouverait dans cette zone de l'Afrique une place après des années d'absence au cours desquelles la francophonie a beaucoup reculé. Le président mettra des mots sur le rôle de la France pendant la période du génocide, précise son entourage. Dans les rues de Kigali, un seul mot est attendu. Pardon.
Brice Dugénie, l'envoyé spécial de RTL au Rwanda.
À l'époque, les ronds-points n'existaient pas, les feux rouges non plus. Il a bien changé le code de la route. Il fête aujourd'hui ses 100 ans. Petit flashback dans un très court instant. Restez avec nous. Vous allez vous amuser.
RTL Matin.
7h08, la suite du journal de Dominique Tenza. C'était donc le 27 mai 1921. Il y a un siècle, jour pour jour, entrait en vigueur le premier code de la route tricolore.
À l'époque, les limitations de vitesse n'existent pas. Il n'y a pas de feu rouge, pas de rond-point. Et notre fameux code Rousseau fait 15 pages contre 270 aujourd'hui. Seules quelques règles à respecter, dont la fameuse priorité à droite. Et pourtant, c'est déjà à l'époque une révolution, Christophe Bourreau.
En 1921, à peine plus de 300 000 voitures circulent en France. Seulement, c'est l'anarchie sur les routes. C'est ainsi que le code est né, la priorité est à droite et d'autres règles qu'il faut apprendre à respecter.
Dérapage en chaîne, roulez comme si le piéton n'existait pas, zéro de conduite.
Et pour les questions, c'est à l'oral avec un examinateur.
Monsieur, vous vous trouvez sur une route à grande circulation, n'est-ce pas ? Vous croisez une route départementale dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le bas-côté d'une route secondaire. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, que faites-vous ?
Puis en 1972, place au célèbre diapo.
Voulez-vous dépasser la voiture ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
5 fautes maximum, pas simple, d'autant qu'au fil des ans, eh bien, le code s'enrichit sans cesse.
Ce qui était une évidence est maintenant spécifié dans le code, il est interdit de reculer sur autoroute.
Avec des dates clés comme 73 et le port obligatoire de la ceinture à l'avant, 74 les grandes limitations de vitesse et 2003 l'interdiction du portable au volant. Et puis dernièrement, les questions sur l'environnement, de quoi bien occuper des heures de révision, les 1,4 million de candidats qui passent chaque année l'examen.
Christophe Bourouf.
Vous avez noté qu'il est interdit de reculer sur autoroute.
Absolument. Brigitte Bardot contre les chasseurs devant le tribunal d'Arras aujourd'hui. L'affaire oppose Bébé, ardente défenseur, on le sait, de la cause animale au patron de la Fédération nationale de la chasse pour une affaire d'injure. Il y a 2 ans, l'ancienne actrice avait publié sur Internet un billet dans lequel elle dénonçait, je cite, les trognes d'ivrognes des chasseurs. Elle a fait savoir qu'elle ne serait pas présente à son procès. La politique a un peu plus de 3 semaines des régionales. Ce sondage est là qui donne le RN en tête de 10 points au premier tour en PACA, loin devant la liste LR menée par le président sortant Renaud Muselier, qui demande plus que jamais à son parti un soutien franc et clair. Et si en PACA le rapprochement de Renaud Muselier avec des élus En Marche en fait tous et quelques-uns, il en est de même en région Bourgogne-Franche-Comté, où là aussi le candidat LR Gilles Platret a choisi d'ouvrir sa liste, mais cette fois aux amis de Nicolas Dupont-Aignan, ancien allié de Marine Le Pen. Les deux hommes ont scellé leur rapprochement hier lors d'une visite à la SPA. Marie Mollet, vous étiez là pour RTL.
Oui, entre les grillages, deux hommes accroupis s'attendrissent ensemble devant des chiens abandonnés.
Dino. Celui-là, il est beau. Le problème, c'est que dès que je viens dans un refuge, je veux repartir avec un chien.
Nicolas Dupont-Aignan, venu chanter les vertus de Gilles Platret.
Pour une fois où il y a un LR formidable comme ça, je vais pas me gêner de lui tendre la main et lui me tendre la main.
Le candidat LR, lui, se justifie plutôt de cet affichage.
Je suis beaucoup plus à l'aise d'être bourguignon et franc-comtois que d'être en PACA en ce moment. Beaucoup plus à l'aise que je ne l'aurais jamais été avec une alliance où En Marche aurait participé.
Mais dans son parti, tout le monde n'est pas exactement à l'aise avec cette alliance. Hier, les figures de la droite locale se sont bien gardées d'être du voyage. Et à Paris, certains poids lourds du parti ont publiquement dénoncé cet accord, comme le patron des députés LR, Damien Abad.
Moi, je suis contre une alliance politique avec Debout la France parce que M. Dupont-Aignan, ça devait être le Premier ministre de Mme Le Pen. C'est inacceptable. La digue doit être claire entre nous et le Rassemblement national.
Mais c'est pourtant bien les électeurs du RN que Gilles Platret tente de séduire, notamment avec cet affichage. Le RN qui, en 2015, avait manqué la région à quelques milliers de voix près.
Reportage signé Marie Mollet.
Alliance, rappelons-le, également contestée par Gérard Larcher, le président Les Républicains du Sénat, qui sera tout à l'heure l'invité d'Alba Ventura à 7h40 sur RTL.
En football, Villarreal a remporté hier soir sa première Ligue Europe en battant en finale Manchester United à l'issue d'une longue séance de tirs au but. 11 tirs contre 10, oui. Il y avait eu un partout au terme du temps réglementaire. Une défaite de Manchester qui ne fait pas les affaires de Monaco. Conséquence du règlement et du classement de l'UEFA, le club de la principauté devra en passer par les tours préliminaires pour intégrer la Ligue des Champions.
Les courses ont lieu aujourd'hui à Longchamp, Dominique.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 11, le 8, le 5, le 7, le 2 et le 3. La dernière minute, c'est le 11, Bazoc.
Vous laissez ramener votre cheval à l'écurie. Faites attention, priorité à droite, hein, vous l'avez bien compris. C'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h12, la politique avec vous Olivier Bosse. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Dans un long entretien au magazine Zadig, Emmanuel Macron pose selon vous son décor pour la présidentielle. Expliquez-nous.
Bah, quoi de mieux que de poser et d'imposer sa propre image, son terrain, ses thèmes, son décor et sa vision à sa future adversaire. Eh bien c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Il y a dans cet entretien la démonstration un peu lourde de sa fine connaissance du pays. Entre l'exposé de géographie et l'étude sociologique à gros traits, la preuve en longueur de cette relation contemporaine et historique que le chef de l'État entretiendrait avec la France et tous ses territoires. Il avait vu, explique-t-il, la désindustrialisation, la disparition des services publics bien avant 2017. Entre le terre-à-terre et le lyrisme, la Seine-Saint-Denis et la Californie sans la mer, dit-il, nous sommes habitués. Voilà pour le président du terroir, mais la vraie charge politique n'est pas là. Dans cette campagne électorale qui décidément s'annonce la plus longue de toutes les campagnes d'un président sortant, Emmanuel Macron décrit consciencieusement le tableau de la prochaine présidentielle.
Ah ben justement, vous nous intriguez, quel est-il ce décor ?
Eh bien une vision, une lecture de la période que nous vivons toute particulière. On revit des temps au fond très moyenâgeux, explique Emmanuel Macron. Les grandes jacqueries, les grandes épidémies, les grandes peurs. Les jacqueries, c'était bien sûr les gilets jaunes, l'épidémie, c'est le Covid. Et les grandes peurs, ce sont la mondialisation, l'insécurité, l'impression de ne plus rien maîtriser de ce qui nous arrive. Nous serions, pour être plus précis, entre la fin du Moyen-Âge, selon Emmanuel Macron, et au début de la Renaissance. Des parallèles totalement assumés, puisque le chef de l'État candidat précise sa pensée. La capacité à embrasser le futur, à se projeter, dit-il, est déterminante pour le rebond que prend le pays. C'est ce qui me rend très confiant. Déjà dans le journal L'Opinion, Emmanuel Macron, il y a un mois tout pile, avait parlé d'un moment de bascule qui se dessine.
Mais aidez-nous à décoder un peu tout ça. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron veut faire passer comme message aux Français ?
Alors d'abord, il purge un quinquennat contrarié et il revient à ses fondamentaux. L'optimisme notamment, nous y revenons souvent ces derniers temps. Si l'on a une énergie collective et une vision, explique Emmanuel Macron, nous pouvons repartir de l'avant. L'énergie, la vision, il ne manque rien. Bien sûr, tout ça est à opposer à Marine Le Pen, la candidate des râleurs du « c'était mieux avant » face au candidat du bonheur, tourné vers le futur. Le débat, le duel s'installe sans que leurs adversaires n'existent. Emmanuel Macron impose un décor où il n'y a de la place que pour deux.
Merci beaucoup Olivier Bost. Et ce matin, c'est Gérard Larcher, je le rappelle, qui est l'invité d'Alba Ventura. Le président du Sénat sera avec nous dès 7h40. Dans un instant, direction Tchernobyl avec notre brigade de l'actualité. Nous serons aussi avec le réalisateur d'un documentaire qui sera diffusé ce soir lors d'une soirée spéciale Tchernobyl sur M6. A tout de suite.
Calvi, RTL Matin.
Il est 7h19. Ce soir, dès 21h, M6, notre scène consoeur, diffuse la série Événements Tchernobyl. Elle retrace minute par minute la plus grande catastrophe nucléaire du siècle passé. Nous serons dans un instant avec Thomas Johnson, le réalisateur d'un documentaire qui sera diffusé ce soir à la suite de notre soirée sur M6. Auparavant, faisons le point avec notre brigade de l'actualité. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez été sur place par deux fois depuis 35 ans. Que s'est-il passé à Tchernobyl? D'abord au niveau de la centrale.
Alors, le réacteur 4, hein, c'est celui qui a explosé et protégé par un sarcophage étanche depuis quelques années pour éviter la dispersion dans l'air de matières radioactives. Et les trois autres réacteurs sont arrêtés.
Autour de la centrale, ça ressemble à quoi?
Eh bien, tout est figé dans le temps. La zone d'exclusion de 30 km autour de la centrale existe toujours. Elle fait 2200 km², à peu près la surface du département des Yvelines. La zone a été vidée juste après la catastrophe de tous ses habitants. Une trentaine de villages et la ville de Pripyat où vivaient 50 000 personnes.
La zone en tant que telle est toujours contaminée?
Alors, pas l'air, mais les sols, oui, bien sûr. Et pour longtemps encore, le césium-137, un des radionucléides rejetés par l'explosion dans le sol, mettra 300 ans à disparaître totalement. Le plutonium des dizaines de milliers d'années.
Donc la zone ne sera plus jamais habitable? D'ailleurs, personne n'y vit.
À demeure, non, personne n'y vit, à l'exception d'une poignée de Samoseli, des personnes aujourd'hui très très âgées, qui avaient été autorisées à revenir vivre sur la zone après l'accident. Et puis il y a des personnes qui travaillent à la centrale ou dans la ville de Tchernobyl, mais elles n'habitent pas sur place ou seulement quelques jours par mois.
Alors en revanche, les animaux, eux, sont bien revenus dans la zone.
Oui, puisque l'homme, ce grand prédateur, n'est plus là. On trouve des ours, des loups, des élans. En 1998, on a même réintroduit des chevaux de Przewalski, une espèce en voie de disparition. Ils étaient 30, ils sont maintenant 150. Il y a aussi des oiseaux, des insectes, des rongeurs. Les autorités aimeraient même faire de cette zone une réserve de biodiversité.
Mais la radioactivité n'a pas de conséquences justement sur tous ces animaux?
Si, bien sûr. Ah. Et les chercheurs ont remarqué des mutations. Par exemple, un taux d'hirondelles albinos élevé. Elles ont des plumes blanches. Et la qualité des spermatozoïdes des mâles est bien moins bonne. Il y a donc moins de petits. La mortalité est élevée. D'autres oiseaux ont un cerveau plus petit. Et certains papillons ont des taches sur les ailes.
Et sur les arbres, les plantes?
Même chose. Certains pins sont déformés. Les pommiers, il y en a encore dans les villages abandonnés. Font des petites pommes. On a remarqué aussi que la radioactivité a un effet sur la décomposition des végétaux. Elle se fait moins bien. On a ainsi au sol une couche de 15, 20, 30 cm de ce qu'on appelle une litière, bien sûr très très contaminée, qui dégage de la radioactivité dans l'air quand il y a des incendies.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Sophie Jousselin. Bonjour Thomas Johnson.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le réalisateur du documentaire La bataille de Tchernobyl. La bataille de Tchernobyl qui est donc diffusée ce soir sur M6 à 23h. Soyons précis, de quelle bataille s'agit-il, Thomas Johnson?
C'est la bataille que 500 000 liquidateurs ont menée juste après la catastrophe. Et ils ont tout fait pour contrôler ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils appellent encore d'ailleurs, l'ennemi invisible. C'est-à-dire cette radioactivité qui aurait pu s'étendre bien au-delà de simplement Tchernobyl et qui s'est étendue d'ailleurs bien au-delà et qui aurait pu provoquer une catastrophe encore plus grande.
Alors qui sont ceux qui ont livré cette bataille que vous nous décrivez dans votre documentaire?
C'est à la fois des médecins, des citoyens, des militaires, des généraux, des constructeurs, des architectes. Enfin, il y avait une population très très importante, une armée très importante de au moins 500 000, 600 000 personnes qui pendant 9 mois ont livré cette bataille. Et j'ai fait ce documentaire.
Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie, on vous écoute.
Non, j'ai réalisé ce documentaire il y a une quinzaine d'années maintenant, mais il était temps parce que beaucoup de personnes qui sont dans ce film aujourd'hui et dans ce documentaire ont depuis disparu et ne sont pas là pour raconter leur histoire. Et si j'ai fait ce documentaire, c'est parce que j'étais à Tchernobyl en 89, j'y suis retourné plusieurs fois, et ce que je voyais là-bas, c'était les hôpitaux se remplir, des gens très malades, et quand je revenais ici, en Occident, en France, les gens ne voulaient pas le croire, il y avait une espèce d'omerta, et cette colère-là, je l'ai gardée pendant 20 ans et j'ai enfin pu l'exprimer en 2006.
Quelle est l'image la plus marquante que vous conservez de ce que vous avez vécu sur place, de ce que vous avez vu ?
C'est ce paysage désert, ce paysage où les hommes ne peuvent plus vivre, cette terre magnifique qui est la zone, l'Ukraine autour, où l'homme ne peut plus vivre, et ça fait pleurer. C'est aussi les gens qui continuent à vivre et qui ont continué à vivre très longtemps, non pas dans la zone, mais autour de la zone. Il y avait au moins 8 millions de personnes qui ont continué à vivre dans des zones contaminées et qui ont continué à ingurgiter du césium, du plutonium et d'autres éléments et qui en sont malades et qui en sont morts, beaucoup.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la parole ce matin chez nous, Thomas Johnson. On retrouve La bataille de Tchernobyl, votre documentaire donc ce soir sur M6. Il sera diffusé après cette série tout à fait exceptionnelle, je le confirme, je l'ai vu, et qui sera diffusé, elle, dès 21h. Merci beaucoup. Dans un instant, nos grosses têtes, on va retrouver Louis Baudin aussi pour notre météo et Anthony Martin. Bonjour Louis.
Bonjour.
Pour sa pépite musicale, bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h26, l'heure de notre pépite musicale. Nous sommes toutes, oui, Anthony Martin, bonjour.
Bonjour. Alors, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un trésor national, Alain Souchon, à 77 ans. Ce 27 mai, on lui souhaite une belle journée d'anniversaire à Alain Souchon. Et on va fêter ça avec une version rare d'une de ses chansons les plus connues. La chanson en question est née après une chute à ski. Une petite plaque de neige s'était décrochée et Alain avait été emporté alors qu'il skiait avec son frère. Une fois en bas de la piste, plus de peur que de mal. Et son frère lui a raconté qu'au moment de la chute, il avait crié « Maman ». Alain Souchon avait 27 ans à l'époque, donc ça l'avait fait sourire. Et il s'était alors demandé si toute la vie on appelait sa mère dans les moments de frayeur. Et parce que c'est Souchon, il a trouvé les mots pour le dire et il en a fait une sublime chanson. Voilà comment est né « Allô, maman, bobo » sur le mal-être et la fragilité assumée. Dernier volet de sa trilogie entamée avec « J'ai 10 ans et je suis bidon ». Alain Souchon avait enregistré « Bidon » en anglais. Et puisque dans ce texte-là, il s'adressait à la mamma, eh bien il a enregistré « Allô, mamma, bobo ».
Non.
Si, la version italienne, c'est notre pépite du jour. Alain Souchon chante en italien.
Troppo fumo, ho sballato il mio cuore, rigetto ogni tre ore. Notti folli, gente su col narolo, lavoro al music hall. Sto male in scena, con loro giù, son fragile, capisco più. Allo mamma, bobo. Mamma che hai fatto non son bello no. Allo mamma bobo. Allo mamma bobo. Io volevo uscire dal porto a far vedere, far stella una candela, un revolver, un cappello da clown, la bella pay al salone. Nel ruolo del duro, del buono io, son fragile.
On se laisse charmer. Hein.
Il est très appliqué, n'est-ce
exactement.
Pas, dans son
et
italien.
C'est mignon comme tout. Allo mamma bobo, la version italienne par Souchon lui-même. Elle est restée inédite pendant des années. On l'a découverte qu'en 94. Alain Souchon va retrouver les concerts et le public dans deux semaines. Avant que sa tournée soit interrompue par la fermeture des salles, eh bien, il apparaissait chaque soir sur scène en chantant Allo maman bobo, en français, hein, seul avec sa guitare. On a hâte qu'il recommence.
Bon anniversaire, cher Alain Souchon. Merci beaucoup, Anthony. On se dit à demain. Je rappelle qu'on retrouve vos pépites musicales en podcast via l'appli RTL, et je rappelle ce rendez-vous pour fêter la reprise de sa tournée, le retour des concerts. Alain Souchon sera donc demain à 7h40 l'invité d'Alba Ventura. Notre rendez-vous matinal avec les grosses têtes, avant de les retrouver de 15h30 à 18h, voici quelques citations.
Qui a dit « La vie m'aura servi de leçon ». Je ne recommencerai pas.
Ah, c'est bien.
Gainsbourg.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Ouais. C'est quelqu'un
pas
qui est
Gainsbourg.
Mort.
Non.
Frédéric Dard.
Frédéric Dard.
Oui.
Excellente réponse.
Oh là là.
Alors là. Mais qu'est-ce qui vous arrive?
Ouais, vous savez, dès que je vois que ça rame un peu en culture, je m'infère.
Je m'infère. Il n'était pas suisse, il n'était pas suisse, il était lyonnais.
Quand on dit trop de conneries, au bout d'un moment, il faut que la culture revienne.
Si, il était naturalisé suisse à la fin, Frédéric Dard.
Oh, comme que vous essayez de démembrer ma bonne réponse.
Il est né à Lyon.
Démembrer ma bonne réponse. L'enlèvement de sa fille et tout ça, ça s'est passé en Suisse.
Sa fille a été enlevée?
Mais bien sûr.
La femme de Guy Carlier?
Vous vous rendez compte? Parce que je suis en train de réaliser si c'est la femme de Guy Carlier qui a été enlevée, qui était la fille de Frédéric Dard. C'est donc la belle-mère de Carlito.
Oui.
Ah voilà.
Attends, je téléphone à Macron alors.
Il va faire une suite.
que d'aventures helvétiques. Rendez-vous dans le grand studio RTL dès 15h30 avec aujourd'hui Laurent Ruquier, Christine Bravo, Ariel Dombal, Bernard Mabille, Franck Ferrand, Titoff et Stevie Boulet. Louis Bodin, parlez-nous de notre météo. On sent que ça se dégage.
Ça se dégage. Ça y est, on sort de cette longue, longue période d'instabilité, de fraîcheur. Ça y est, aujourd'hui, c'est la journée charnière. Il y a encore quelques nuages, quelques pluies ce matin, notamment de la Bourgogne au nord-est. Mais ailleurs, on sent bien que les éclaircies sont en train de gagner du terrain, ce qu'elles feront également cet après-midi dans la plupart des régions. Quelques nuages encore sur la Bretagne ou même dans le nord-est, mais globalement, donc le retour d'éclaircies, d'un temps un peu plus sec, grand soleil dans le sud et des températures qui vont commencer à grimper. Attention, hein, c'est pas encore aujourd'hui l'envolée, mais on sera entre 17 et 21 degrés tout de même dans la moitié nord. On se rapproche des valeurs de saison, 21 à 26 dans le sud.
Louis Botin. Il est 7h31, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 27 juin. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est une étape cruciale dans le retour à la vie d'avant. Le concert test à Bercy, c'est dans 2 jours. Et depuis hier, la fosse de l'Accor Arena est transformée en centre de dépistage géant. Des milliers de volontaires se font tester avec l'espoir d'être sélectionnés pour le concert du groupe Indochine samedi. Oui. Parmi eux, Anastasia et Laura qui viennent tout juste d'avoir leurs résultats.
Même si ça avait été Michel Sardou, j'y serais allée, hein, concrètement.
C'est pour recommencer à vivre, ouais.
La transpi des gens me manque, je pense. Surtout, on a envie de sortir, quoi. Ça va être trop bien, donc on a hâte.
Et une première étape de franchie, donc. Et si ensuite elles font partie des heureux élus, elles pourront assister au concert, mais dans des conditions bien spéciales, hein, oui. Parce que plus qu'un concert, c'est véritablement un essai clinique. Mm-hmm. Explication de Constance Delogère, la responsable de l'étude. Elle est professeure de virologie à l'hôpital Saint-Louis, à Paris.
Un test en amont, le port du masque, le gel hydroalcoolique, une ventilation optimisée. Par contre, les gens n'auront aucune distanciation physique puisque tout se passe dans la fosse de l'Accor Arena en jauge réelle. Et donc, il faut imaginer que c'est 2 à 3 personnes par mètre. Donc, vraiment à l'opposé de tout ce qu'on entend depuis 18 mois. Hein. Et donc, on va pouvoir comparer le nombre de personnes positives 7 jours après le concert qui sont venues au concert au nombre de personnes positives qui ne sont pas venues au concert. Et on va voir s'il y a un surrisque.
Propos recueillis par Odile Pouget. Pour l'heure, l'épidémie continue de reculer et la France se protège. Elle met en place un isolement obligatoire d'une semaine pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Une barrière contre le variant indien qui est très contagieux. Romane est française, elle vit à Londres et elle est fatiguée.
Honnêtement, c'est de l'agacement, il y en a marre en fait. Parce que là, c'est la version indienne qui ferait qu'il y ait cette nouvelle règle. On ne voit plus le bout du tunnel avec tout ça et c'est ce qui pèse le plus en fait. Ici, on commençait déjà à être vaccinés, donc tout le monde commence un petit peu à alléger, à assouplir les règles. Ce qui nous rassurait, que maintenant, on se dit, mais si ça se passe comme ça pour tous les variants de tous les pays, au bout d'un moment, on n'a pas fini.
Propos recueillis par Marie Billon. Sur le plan économique, la sortie du quoi qu'il en coûte est sur les rails. Dans une interview aux Échos, Bruno Le Maire estime qu'il faut passer d'un soutien généralisé à un accompagnement ciblé. 15 milliards d'euros supplémentaires sont crédités au budget 2021 pour les entreprises du tourisme.
Nous partons maintenant au Rwanda, où Emmanuel Macron effectue aujourd'hui une visite historique.
Les relations sont empoisonnées depuis plus de 25 ans par le rôle trouble joué par la France dans le génocide des Tutsis en 94. Le rapport Duclert, rendu fin mars, reconnaît des responsabilités lourdes et accablantes. Assunta Mugirazena est la directrice d'IRIBA, un centre d'archives historiques à Kigali. Elle attend beaucoup du discours que le président français doit prononcer ce matin au mémorial du génocide dans le centre de Kigali.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je fais confiance au discours du président Macron. Il sait bien parler. S'il devait présenter des excuses du peuple français, que ce soit des excuses sincères, construites et responsables. Pardon, c'est un mot dont on a beaucoup usé, abusé. Ce qu'il faut, c'est de construire le pardon. Si ce n'est pas cette fois-ci, j'attendrai jusqu'à ma mort, s'il le faut.
Un témoignage recueilli par Brice Dugénie, envoyé spécial d'RTL au Rwanda. Aux États-Unis, une nouvelle fusillade hier. Un employé d'une entreprise de transport a tué au moins 8 personnes sur le site de la compagnie à San José en Californie. Il s'est ensuite suicidé. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, appelle à un sursaut contre la prolifération des armes.
On a l'impression que cela se répète encore, encore et encore. Et nous en sommes là. On vit aux États-Unis quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. Cela nous pousse à nous demander, mais que se passe-t-il donc aux États-Unis? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Et surtout, quand allons-nous laisser tomber les armes, au propre comme au figuré? Arrêter la politique, les rhétoriques stériles, de s'accuser les uns les autres, une consternation qui ne produit rien de plus que de la colère et de la frustration.
Et Joe Biden, de son côté, appelle le Congrès à agir immédiatement.
7h35, retour en France avec la suite du Beauvau de la sécurité.
Une réunion consacrée aux relations police-justice. Les syndicats de police vont retrouver Éric Dupond-Moretti, qu'ils ont hué la semaine dernière lors de leur rassemblement devant l'Assemblée. Du côté des profs, Jean-Michel Blanquer promet une enveloppe de 700 millions d'euros l'an prochain pour améliorer les salaires. On passe au foot, c'est Villarreal qui remporte la Ligue Europe face à Manchester United. Victoire au bout de la nuit, il a fallu aller au tir au but 11-10 à la fin. Ce résultat est une mauvaise nouvelle pour Monaco qui devra du coup passer par un tour préliminaire en Ligue des Champions. Et puis en championnat, premier match de barrage ce soir entre Nantes qui joue son maintien en Ligue 1 et Toulouse qui espère monter. Le match retour, ce sera dimanche.
Isabelle, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Une face cachée à haut potentiel intellectuel. Yves, nous verrons que les surdoués aujourd'hui, c'est un business.
HPI, à tout à l'heure Isabelle. Choquet. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
C'est le rachat d'un jour rugissant qui vous anime ce matin, cher François.
Vous l'entendez, on n'est pas aux eaux de Beauval.
Non.
On est à Hollywood, à la MGM, racheté par le géant du e-commerce Amazon. Je vous raconte ça tout de suite.
À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, Langleco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Voilà qu'Amazon avale le lion le plus célèbre de l'histoire du cinéma.
Oui, celui de la Metro-Goldwyn-Mayer. C'est l'un des plus grands studios de cinéma américain, donc de Hollywood, fondé en 1924. Amazon a annoncé hier avoir conclu l'achat de l'entreprise avec son catalogue de 4000 films. Parmi ces films, James Bond, Le silence des agneaux et quelques 17 000 épisodes de séries TV, la plus connue récente. C'est La Servante écarlate. Mm-hmm. Le géant du e-commerce va quand même payer quelques 7 milliards d'euros pour cela.
Alors, que va faire un site de commerce en ligne dans le cinéma ?
Alimenter son site de diffusion de films en ligne, le streaming. C'est ce qu'Amazon appelle son service Prime, qui permet aussi des livraisons accélérées quand on commande sur le site. Il est commercialisé 100 euros par an aux États-Unis, un peu moins en France. L'entreprise se flatte d'avoir déjà 200 millions d'abonnés dans le monde, dont 175 millions regardent justement des vidéos en ligne. Pas loin de Netflix, qui est juste au-dessus de 200 millions d'abonnés. En fait, ce rachat est l'un des épisodes de la guerre qui se livre, principalement aux États-Unis, pour occuper nos écrans et nos cerveaux, et vendre aux ménages du monde entier des abonnements vidéo. Netflix, Amazon, Disney, demain probablement Apple, ils font tous la même chose.
Pourquoi les GAFA se mettent-ils dans le business du cinéma ?
Parce qu'avoir des abonnés, ça assure des revenus récurrents, contrairement à la vente de produits. Ça permet aussi de recueillir des données sur chaque utilisateur, ses préférences, les habitudes de consommation, qui valent cher, parce qu'elles sont utilisables pour développer d'autres produits ou services, ou pour être revendues. Du coup, tous cherchent des contenus pour alimenter leurs services et justifier un abonnement mensuel.
Oui, c'est ça, ça tombe tous les mois, on a bien compris.
Voilà.
C'est donc une bonne affaire, MGM ?
Écoutez, pas évident, c'est un peu un nanar. Ah. Il a changé de propriétaire d'innombrables fois. Vous vous souvenez qu'il a appartenu au Crédit Lyonnais ?
Pas du tout.
Juste avant sa faillite, la faillite du Crédit Lyonnais, c'était il y a 30 ans. Amazon le paye cher, MGM a ruiné plusieurs propriétaires. L'un des actifs les plus séduisants, c'est la marque James Bond, mais elle n'appartient pas en totalité à MGM, parce que les héritiers Albert Broccoli, vous voyez, on voit son nom toujours dans le générique, là. Eh bien, c'était le producteur historique des James Bond. Ils doivent donner leur autorisation à toute nouvelle production et ils sont très sourcilleux. Amazon fait le pari de redresser le studio pour en faire une centrale de production. Pari différent de celui de Netflix qui investit plutôt en achetant des stars au prix fort.
Alors, on voit qu'Amazon est la cible d'attaques récurrentes de la part des autorités, des autorités américaines à cause de sa puissance. Oui. Ce rachat va rien arranger.
Non, c'est vrai, ça a commencé dès hier avec des commentaires très critiques de la part des politiques américains. Le paradoxe, c'est que dans ce domaine, le domaine du streaming, pour une fois, Amazon fait face à une vraie concurrence, ce qui n'est pas le cas dans ses autres activités.
Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve pour l'Angleco dès demain matin sur RTL. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le président du Sénat Gérard Larcher, un des piliers de la droite. Nous allons revenir bien sûr sur l'état de son parti un peu plus de 3 semaines des régionales et puis sur l'état de la France plus généralement.
Le président du Sénat Gérard Larcher est avec nous au micro d'Alba Ventura sur RTL dans un tout petit instant. Restez avec nous, bonne journée à tous.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez, RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher.
Bonjour Gérard Larcher.
Bonjour.
J'invite mon parti à me soutenir et à me ressoutenir très clairement. Cette phrase, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui l'a prononcée hier. Renaud Muselier, distancé dans les sondages au premier tour par le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani. Vous dites ce matin, Gérard Larcher, je soutiens très clairement Renaud Muselier.
Oui, je soutiens Renaud Muselier, et très clairement, mais qui a créé cette confusion? Qui a créé cette situation où nous voyons à la fois moins d'un tiers des électeurs qui disent qu'ils vont aller voter dans le récent sondage, et 43% au premier tour qui voteraient pour Thierry Mariani? C'est le président de la République qui a créé la confusion. Et en quelque sorte, à chaque fois qu'on manque de clarté, eh bien, on favorise le Rassemblement national.
Ce n'est pas Renaud Muselier,
il a un bon bilan, il a un très bon bilan de président de région sud, mais la réalité politique, c'est celle créée par cette confusion voulue par le président de la République et même annoncée par un Premier ministre.
Dans un accord, il faut être deux. Hein. Donc d'un côté, il y a le président peut-être et le Premier ministre, et puis de l'autre côté, il y a Renaud Muselier.
Oui, mais reconnaissez qu'il y a une certaine dissymétrie dans ce qui s'est passé. Donc nous soutenons clairement Renaud Muselier, nous appelons, y compris ceux que je comprends en souffrance, à soutenir Renaud Muselier, parce que je ne me trompe jamais de priorité.
Vous allez aller en Provence-Alpes-Côte d'Azur le soutenir?
Moi-même ou d'autres, certains vont y aller, mais je laisse à Christian Jacob le soin. Nous avons besoin de clarté, d'être coordonnés, et je lui fais confiance.
Vous ne considérez pas que c'est perdu?
Non.
Non.
C'est un combat qu'il faut mener, c'est un combat difficile, mais nous pouvons l'emporter.
Parce que la dernière enquête de l'Institut ELAB donne 45% au Rassemblement national dans le cas d'une triangulaire, 50-50 en cas de duel. Le Rassemblement national, pour vous, n'a pas encore cette région, n'a pas encore remporté.
Nous allons tout faire pour qu'il ne la remporte pas.
Le RN peut faire des bons scores à ces régionales?
Le RN peut faire des bons scores. Je vois bien que Marine Le Pen cible principalement trois régions. Nous allons tout faire pour qu'il n'en ait aucune.
Et l'accord en Bourgogne-Franche-Comté, alors avec Debout la France, le parti de Nicolas
Dupont-Aignan? Vous savez ce que j'en ai dit, je n'y
ça vous pose un problème aussi.
Favorable, mais ma priorité, c'est de battre le Rassemblement national en Franche-Comté comme ailleurs. Donc j'irai en Franche-Comté pour soutenir Gilles Platret et Jean-Marie Sermier. En même temps, je dirais que
du Front national.
Oui, contre le Front national.
Dans les Hauts-de-France, pour l'instant, c'est Xavier Bertrand qui fait la course en tête, qui n'est plus LR, mais qui est issu de vos rangs, et il entend faire campagne, lui, tout seul et sans accord. S'il l'emporte, Gérard Larcher, est-ce que ça fera de lui votre candidat de la droite pour la présidentielle? Non, mais est-ce qu'il ne s'impose pas d'une certaine manière, s'il l'emporte?
D'abord, je vais aller soutenir Xavier Bertrand. J'y étais allé il y a 6 ans, et j'irai sans doute dans le Pas-de-Calais. Parce que vous voyez, quand on voit la confusion créée par l'arrivée de ministres en grand nombre face à Xavier Bertrand, moi je ne me trompe pas. L'adversaire pour moi, c'est M. Chenu, le Rassemblement national, et celui qui porte les valeurs que nous avons en partage, c'est Xavier Bertrand. Si Xavier Bertrand gagne, si Valérie Pécresse l'emporte, si Laurent Wauquiez l'emporte, nous aurons, juste derrière les régionales et départementales, à déterminer quel sera le ou la candidate. Si quelqu'un s'impose naturellement, nous en ferons le constat. Sinon, nous entrerons dans un procédure que j'ai appelé, qui est maintenant partagé, du mot « départage » pour choisir. Ce n'est pas une procédure simple, c'est une procédure qui nécessite quelque part qu'on respecte les uns et les autres, qu'on sorte avec un projet, et pour parler en vieux français, une dream team qui soutiendrait le candidat et la candidate, et vous verrez qu'à ce moment-là, tout est possible.
C'est ce départage-là, Xavier Bertrand, lui, n'en veut pas, il ne veut pas être associé à ça.
Écoutez, chaque chose en son temps. Ça, c'est mon côté paysan du sud des Yvelines, Monsieur Calvi, au sud de la Seine-et-Oise. On engrange une fois que la récolte est faite.
Gérard Larcher, dans une longue interview au magazine Zadig, le président Macron confie sa vision de la France. Alors, il se dit confiant dans la capacité des Français à aller de l'avant. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme, cet optimisme?
Quand j'ai lu ce interview fleuve, je me suis dit, ça y est. On est entré en campagne, on a une mise en scène de roman, j'ai pensé à Balzac, comme ça, vous voyez. Et au fond, il nous dépeint un Macron qu'on ne connaît pas. Le Macron qui aime la province, de la Picardie aux Pyrénées. Le Macron qui vit dans une chambre de bonne et étudiant. Le Macron qui parle du 93 et qu'il compare à la Californie. Manifestement, on n'a pas été dans les mêmes endroits. Le Macron qui nous raconte le territoire et ses souffrances. Et moi, en face, j'ai plutôt un urbain, un président des riches, un Jupiter, un vertical. Et au fond, est-ce qu'il est crédible?
Mais pour vous, Macron, c'est que la banque Rothschild?
Non, c'est pas la banque Rothschild. J'ai pas dit, j'ai pas prononcé.
Ah, presque.
J'ai pas prononcé ce mot-là parce qu'en plus, il a des connotations que je déteste. Mm-hmm. Mais il s'est pas en fait occupé de cette France d'à côté dont il parle. Jamais le pays n'a été autant fracturé. En fait, en 2017, on a Nouveau Monde. En 2021, on nous annonce le nouveau Macron, mais entre-temps, il a été 4 ans président. Et donc, je me dis, tout ça, est-ce bien crédible?
Oui, monsieur Gérard Larcher, la France dont il parle, qui décroche la relégation, la désindustrialisation,
des
l'abandon
publics.
Des services publics.
Mais bien sûr, mais c'est la France qu'il préside depuis 4 ans.
Qui n'existe pas depuis 4 ans.
Mais bien sûr, mais il la préside depuis 4 ans.
Mais vous étiez dans des majorités où déjà il y avait la désindustrialisation, déjà il y avait le recul des services publics.
J'étais ministre du Travail, j'ai connu la désindustrialisation. Donc cette réalité, elle existe, mais... qu'a-t-il fait en 4 ans? C'est aussi un moment...
Donc il n'a rien
chez,
fait en 4 ans, selon
chez Balzac ou c'est Stendhal, un moment on se regarde dans un miroir et qu'ai-je fait? Eh bien, je vous le dis, aujourd'hui, le bilan, il n'est pas si important que ça. Il suffit de regarder, François Langlais pourrait vous décrire ça très bien, les résultats de la Cour des comptes de ce qui s'est passé avant 2019. Nous sortirons avant même... la crise du Covid avec une France qui n'a pas réduit sa dépense publique, qui n'a pas réformé son appareil d'État. Ce n'est pas en supprimant le concours de l'ENA qu'on aura suffi à changer la bureaucratie de ce pays.
Qu'avez-vous pensé de l'épisode de Gérald Darmanin au Audrey Pulvar, le ministre de l'Intérieur, qui dit porter plainte, puis finalement non, face à une candidate qui dit trouver la manifestation des policiers glaçante. Tout ça pour finalement se terminer par un rendez-vous autour d'un café?
Je crois que Audrey Pulvar s'est trompée de siècle. On n'est pas en février 34. Ça n'était pas une marche contre l'Assemblée nationale et ça n'était pas glaçant. Je n'y étais pas parce que je pense que le rôle d'un président d'Assemblée, c'est pas d'aller d'être à la porte d'une autre Assemblée et d'un autre président. Mais j'ai remarqué que tous les partis politiques, à l'exception de la France insoumise, y étaient. Par contre, Gérald Darmanin a sans doute fait une vraie faute de quart en envisageant la plainte. Vous savez, je lui ai dit un jour, faut mieux faire moins de déplacements et plus de démantèlement. Je parlais notamment des près de 4000 points de trafic de deal recensés dans ce pays. Il y a aujourd'hui même une réunion à nouveau avec les policiers. Il y a une réalité. L'an dernier, plus de 8000 policiers et gendarmes blessés. Ça, c'est une réalité. Et il y a aussi ces élus qui sont agressés. Vous savez, le maire d'Ouge, en Côte d'Or, quand il est agressé le week-end dernier, il fait partie de ces 1300 élus, trois fois plus que 2 ans avant, agressés. Nous sommes dans une société où la violence est présente, où l'état de droit doit être défendu. Pour défendre le droit, nous avons besoin d'une police, d'une justice, d'une bonne base législative, et nous avons besoin... d'une justice qui, quelque part, est reconnue et qui assume pleinement ses responsabilités. Je pense qu'elle le fait, moi. Je pense qu'il y a aujourd'hui un problème entre justice, société et les décisionnaires.
C'est quoi le problème ?
Le problème, c'est que, quelque part, la justice a été tenue en état de pauvreté. Quand on parle de service public de la justice, le service public de la justice est un service public pauvre. Je compte prendre un certain nombre d'initiatives. On ne peut pas rester dans cette défiance. Dans ces dos qui sont retournés les uns par rapport aux autres, notamment entre les décideurs politiques et la justice. Nous avons besoin, dans un état de droit, d'une justice respectée, reconnue.
Monsieur le Président du Sénat, Gérald Darmanin va proposer une nouvelle version de l'article 24 de la loi Sécurité globale. Oui. Article destiné à punir la diffusion d'images de policiers et de gendarmes dans l'intention de leur nuire. Cet article, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel après la réécriture par le Sénat.
Oui, d'ailleurs, il faut analyser ce que nous dit le Conseil constitutionnel. Oui. Il faut être plus précis, aller plus au fond. Je crois que le Conseil constitutionnel a voulu envoyer un message, attention aussi aux libertés. Depuis 2015, nous avons décidé, voté un certain nombre de textes qui, face au terrorisme, face aujourd'hui à la crise sanitaire, sont des textes qui sont... restrictif des libertés. Vous savez que le Sénat est extrêmement attentif aux libertés individuelles et collectives. Et nous voyons sans doute qu'il va falloir être encore plus attentif. J'ai en tous les cas prévu avec le président de la Commission des lois une réflexion sur ce sujet. C'est pas le Conseil constitutionnel qui fait la loi, mais la loi doit rentrer dans les principes de la Constitution.
Vous parliez à l'instant des maires agressés. Il y a des maires qui, eux, prennent des initiatives. Je pense au maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a décidé d'organiser un mois décolonial au mois de juin. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
Ça m'inspire que quand je regarde le titre, c'est le contraire du vivre ensemble qui est proposé. C'est ce qui fait une nation, c'est pas la race, c'est pas la religion, c'est ce plébiscite de tous les jours dont parlait Renan. Vous savez, moi je suis pour l'universalisme républicain, je suis pour la laïcité, je suis pour la mixité. À ceux qui disent qu'il y a un racisme d'État, je leur dis non, je leur dis que je crois à l'universalité de la République, et j'espère que M. Piolle ne se trompe pas, il n'est pas comme le maire de Chicago qui vient de refuser d'être interviewé par d'autres journalistes que des journalistes de sa couleur ou métisse. Ça n'est pas ma vision de la République.
Dernière question, très rapidement. Le président est au Rwanda, le président Macron. Il faut dire pardon pour le Rwanda ?
Moi, je ne suis ni dans la repentance, ni dans la suffisance. Je crois que la démarche est la reconnaissance. Nous avons des parts d'ombre et de lumière dans notre histoire. C'est vrai dans un certain nombre d'endroits. Je pense que la repentance n'est pas la voie. La reconnaissance de faits, de ce qui peut être parfois des erreurs. Mais il y a aussi des moments de lumière dans nos relations. Le débat, on pourrait l'avoir aussi avec un pays avec lequel j'entretiens des relations assez étroites au travers de son Conseil de la Nation, c'est l'Algérie. C'est des sujets qui méritent que nous soyons autrement que dans une attitude, me semble-t-il, de repentance, mais de reconnaissance.
Merci Gérard Larcher.
Le président du Sénat qui apporte tout son soutien à Renaud Muselier en région PACA, comme d'ailleurs à Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, ou Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Nous choisirons ensuite notre candidat à l'élection présidentielle, vient de nous dire Gérard Larcher sur RTL. Dans un instant, notre météo, elle sera signée Louis Bodin.
C'est en 0,8 matin.
C'est agréable de pouvoir dire que la douceur est de retour.
Oh bah oui, après cette longue période, c'est quasiment tout le mois de mai qui a été froid, humide, avec même de la neige montée. Bref, on se souvient, on va pouvoir oublier tout ça. Ça y est, on est en train de changer de situation générale, avec aujourd'hui la journée un peu charnière, mais avec déjà plus de soleil. Ce matin, ça va être sous un ciel bleu à Paris, ou encore du côté de la Normandie, dans la moitié sud, mais c'est déjà le cas hier. Alors il reste quelques nuages encore entre la Bretagne et le nord-est, mais là aussi, ça va aller de mieux en mieux au fil des heures. Et du coup, cet après-midi, éclaircie pour tout le monde. Quelques nuages quand même sur la Bretagne ou encore dans le nord-est. Pour ceux qui n'auront pas de chance, encore quelques averses du côté de la Lorraine ou encore sur le Jura. Dans la moitié sud du soleil, un zeste de Mistral dans la vallée du Rhône. Et puis côté température, attention, c'est froid ce matin, ça va se radoucir cet après-midi. 2 degrés à Reims en ce moment, 3 degrés à Beauvais, 4 degrés à Creil ou encore du côté de Pontoise. Donc c'est frais, mais cet après-midi, 17 à 21 degrés dans la moitié nord. On va franchir les 20 degrés à Paris, par exemple. C'est pas arrivé durant le mois de mai. On aura 21 à 26 degrés dans la moitié sud et 28 degrés même à Nîmes.
Ça nous fait rire avec Jérôme Florin, Louis Bodin. Bonne journée à tous, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, Emmanuel Macron en terre de mission.
Mission réconciliation au Rwanda, 27 ans après le génocide. L'avion du chef de l'État s'est posé il y a une demi-heure. Nous serons sur place. Dans ce journal également, la colère de Laurent Tapie, l'un des fils de l'homme d'affaires, reproche au tribunal de poursuivre les débats sans lui alors que son état de santé est de plus en plus préoccupant.
Les gens ont un peu trop tendance à penser que c'est un surhomme qui peut toujours résister, rebondir. Il y a un moment... Le ressort, il casse aussi.
Et puis Zidane qui dit adios au Real, on appellera notre correspondant à Madrid.
RTL Matin.
Il suffirait presque de 6 lettres pour réconcilier enfin deux pays et apaiser des relations empoisonnées depuis un quart de siècle, depuis le massacre des Tutsis au Rwanda, plus de 800 000 morts. Un rapport a récemment reconnu la lourde responsabilité de la France. Emmanuel Macron les prononcera-t-il, ses excuses, ce mot de pardon ? Le chef de l'État, deuxième président français à se rendre sur place après Nicolas Sarkozy, dit ce matin sur Twitter vouloir ouvrir une nouvelle page. Il a atterri tout à l'heure à Kigali, la capitale, et il doit s'exprimer devant le mémorial du génocide. Sur place, pour RTL, Brice Dugénie.
La colline de Nyanza, à l'écart de la circulation du centre-ville, est l'une des nombreuses montagnes luxuriantes qui dessinent la capitale rwandaise. Elle est devenue un lieu de mémoire et le président de l'association est un survivant, Ejide Nkoranga.
Ce lieu est particulier parce que, à un endroit comme ici, plus de 3000 personnes ont été exterminées dans une seule soirée.
Depuis 27 ans, il tente de comprendre ce génocide et le rôle de chacun, dont celui de la France. Invité, il assistera tout à l'heure au discours du président Macron.
Ce qu'on attend dans son discours, c'est un pardon de la part de la France. Parce que comme vous le savez, les Belges, la Belgique a demandé pardon. Les États-Unis l'ont fait. Alors on se demande pourquoi pas la France maintenant. C'est le moment.
Au-delà des mots, il espère des annonces concrètes du président français.
Ce qu'on attend de lui maintenant, c'est surtout d'essayer de traduire devant la justice les génocidaires qui sont en liberté en France.
À 33 ans, Jean-Paul Kayumba n'a plus de père, d'oncle, ni de grands-parents. Caché pendant des jours avec sa mère, il s'en est sorti et ne rattrape pas ce discours.
Moi, j'aime la France. J'aimerais bien qu'il y ait cette harmonie, qu'il y ait la relation entre ces deux pays revienne. Moi, je vois la visite du président Macron comme un premier pas. C'est le moment de dire pardon. Si vous voulez, ils se sentent capables au moment de le dire. Oui, qu'ils le disent, ça va nous faire du bien.
Pour la première fois, il va regarder un discours politique à la télé. Il veut ressentir, dit-il, dans la gestuelle du président français, la sincérité de son engagement.
Brice Dugénie, envoyé spécial de RTL au Rwanda.
En France, la colère des proches de Bernard Tapie.
Son procès en appel dans l'affaire de l'arbitrage se poursuit sans lui et sans ses avocats. L'homme d'affaires est jugé, on le rappelle, pour escroquerie et détournement de fonds publics. La défense avait demandé un report pour raison médicale. Bernard Tapie, atteint de plusieurs cancers, doit subir en ce moment de nouvelles interventions chirurgicales et elles sont lourdes. Pour RTL, Sinamir a pu joindre l'un de ses fils, Laurent Tapie, qui dénonce l'acharnement du tribunal alors que son père est au plus mal.
Sur le plan physique, il va mal, hein, puisque le cancer a beaucoup progressé et que ces jours-ci, c'est très très dur. Il rentre dans un protocole multiple qui est extrêmement éprouvant, avec à nouveau de la chimio, de l'immunothérapie, des rayons pour certaines tumeurs, de la cryogénie pour d'autres. Il a eu une opération où on lui a ouvert une partie du visage pour retirer des tumeurs sous la peau. Enfin, tout ça à quelques jours d'intervalle et ça va continuer sur plusieurs semaines. Donc physiquement, il est vraiment très très diminué. Depuis le début de la maladie, on l'a rarement vu aussi diminué qu'en ce moment. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan moral, honnêtement, on a tous pris un gros coup au moral quand même de voir cette décision de refuser le report.
Est-ce qu'il en parle ? Est-ce que vous avez échangé sur le sujet avec lui ou est-ce qu'il est complètement concentré actuellement sur son combat, celui de sa santé ?
J'ai d'autant plus échangé que c'est moi qui l'ai amené à sa séance de chimio, si je suis resté avec lui et qu'il est ramené à la maison. Et que c'est dans cet intervalle-là qu'on a su que le tribunal refusait le report. Donc on était... J'allais pas dire extrêmement surpris parce qu'il le sentait venir, tellement il sent que ce tribunal est vindicatif et inamical, on va dire, depuis le début. Donc on est plus révolté que surpris. Mais bon, les gens ont un peu trop tendance à penser que c'est un surhomme qui peut toujours résister, rebondir. Il y a un moment, le ressort, il casse aussi. Donc, quand vous êtes sa famille et que vous êtes très proche et que vous voyez ça de près au quotidien, vous sentez que ce moment, on n'est pas loin. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment révoltant de ne pas accepter simplement de laisser passer cette phase de 3-4 mois pour reprendre les débats. C'est vraiment incroyable.
Laurent Tapie, fils de Bernard Tapie, joint pour RTL par Sinamir. Une initiative peu commune pour lutter contre la délinquance, le maire LR de Rieux-la-Pape dans le Rhône appelle ses administrés à signaler sur une plateforme dédiée tout acte contraire à la loi. Les parents peuvent même dénoncer leurs propres enfants. La commune a connu plusieurs épisodes de violences urbaines ces derniers mois. Le maire lui-même a fait l'objet de menaces.
Les syndicats enseignants, déçus par l'enveloppe de Jean-Michel Blanquer, sans
surprise. Le ministre a annoncé 700 millions d'euros supplémentaires pour le prochain budget de l'éducation nationale. 400 millions iront dans les augmentations et les primes. Qui pourra en bénéficier ? Ça reste à négocier. Frédéric Rollet est la secrétaire générale du SNES-FSU. Elle dénonce une occasion manquée.
On est évidemment déçus, l'enveloppe étant quand même pas très élevée, hein. 400 millions, dont on ne connaît pas exactement la destination, c'est-à-dire quels seront les personnels véritablement touchés, sous quelle forme, tout ça devra être discuté normalement dans un nouvel agenda social. Le ministre avait parlé de revalorisation historique, on en est très 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 loin.
Un propos recueilli par Marie Guerrier. La fin du télétravail à 100%, c'est pour le 9 juin, beaucoup de salariés n'ont pas mis les pieds au bureau depuis plus d'un an maintenant. Maintenant, un projet de protocole sanitaire a été envoyé hier soir aux partenaires sociaux. Sanofi vient d'annoncer le lancement de ses essais à grande échelle pour son projet de vaccin anti-Covid. Il devrait être disponible fin 2021. Et puis au Royaume-Uni, le variant indien plus contagieux gagne du terrain. La France imposera dès lundi une semaine d'isolement obligatoire à tous les voyageurs ayant traversé la Manche.
Et bien justement Jérôme, on part à Londres dans une minute où la gestion de la crise par Boris Johnson est étrillée par l'un de ses anciens conseillers. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Il s'appelle Dominic Cummings et il a longtemps été le bras droit de Boris Johnson.
Son conseiller le plus proche, souvent caricaturé outre-Manche comme le mauvais génie du Premier ministre, il a été renvoyé en novembre. Et le témoignage qu'il vient de livrer lors d'une audition parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire est accablant pour le locataire de Downing Street, Marie Billon.
Il y a sûrement une part de rancœur dans le témoignage fleuve de Dominic Cummings, mais il a été au cœur du pouvoir pendant la pandémie. Alors il est une source de première main, surtout quand il confirme les rumeurs.
Les gens pensent que parce que le virus a failli le tuer, il a fini par le prendre au sérieux. Mais après le premier confinement, il a dit littéralement « j'aurais dû faire comme le maire du film dans les Dents de la Mer et garder les plages ouvertes ».
Dominic Cummings a aussi confirmé que Boris Johnson a bien dit préférer que les corps s'entassent plutôt que de reconfiner, mais il n'était pas aidé non plus par certains de ses ministres, dont celui chargé de la santé, dit-il, qui aurait menti en affirmant que tous les pensionnaires renvoyés de l'hôpital en maison de retraite étaient testés. C'est faux et à la fin, c'est la faute de Boris Johnson, dit Cummings.
Pour moi, il est fondamentalement inapte à exercer la fonction de Premier ministre, donc j'ai essayé de créer une structure autour de lui pour le stopper dans les mauvaises idées.
Dominic Cummings tient à garder le beau rôle, s'excusant pour ses erreur à lui, et s'il n'a pas claqué la porte plus tôt, dit-il, c'est parce qu'il espérait changer les choses de l'intérieur.
Marie Billon à Londres pour RTL.
On reste dans les portes qui claquent, hein, le football, Zidane devrait dire adieu au Real.
Oui, plusieurs médias espagnols annoncent son départ du club madrilène. L'entraîneur aurait informé hier les dirigeants du club. Le Real a récemment cédé sa couronne de champion d'Espagne à l'Atlético Madrid. Bonjour Mathias Valton.
Bonjour.
Vous êtes à Madrid pour RTL. Il y avait déjà eu des rumeurs, mais cette fois les choses semblent se préciser, se confirmer. Hein.
Oui, selon plusieurs médias espagnols importants, la Cadena Ser, Marca, AS, Zinedine Zidane a décidé de quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid. Le Français aurait communiqué sa décision tard hier soir à son entourage, son staff technique, ses dirigeants et une partie de ses joueurs. La démission de Zizou devrait être officialisée dans la journée après un rendez-vous prévu avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Un peu plus de 2 ans après son retour sur le banc madrilène, Zidane a donc, comme en 2018, décidé de partir de son propre chef, lassé notamment des critiques constantes de la presse à son égard, mais surtout du soutien inexistant de ses dirigeants dans les moments difficiles. Pour sa deuxième étape sur le banc merengue, Zidane aura remporté une Liga et une Supercoupe d'Espagne, mais aucun trophée cette saison. Pour le remplacer, on parle des entraîneurs italiens Massimiliano Allegri et Antonio Conte, ou encore d'une autre légende madrilène, Raúl, qui cette saison entraînait la réserve du Real. A voir désormais si Zidane va rebondir dans un autre club la saison prochaine. On évoque notamment l'intérêt de son ancien club, la Juventus de Turin, ou si, comme en 2018, il va décider de prendre une année sabbatique.
Merci beaucoup Mathias Valton, direct de Madrid. Villarreal remporte sa première Ligue Europe après avoir battu au tir au but Manchester United. Conséquence indirecte, la défaite des Anglais oblige Monaco à passer par un tour préliminaire de Ligue des Champions. Et puis ce jeudi, Toulouse va tenter son retour en Ligue 1 un an après avoir quitté le championnat. Il faudra pour cela remporter le barrage face à Nantes aujourd'hui et dimanche.
L'histoire du jour.
Coup dur pour l'équipe cubaine de baseball qui vise une qualification pour les JO de Tokyo. À peine arrivé aux États-Unis pour les préparatifs, l'un des joueurs phares du groupe a pris la poudre d'escampette, laissant ses coéquipiers en plan. Il a profité de l'obtention de son visa. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Plusieurs stars du baseball cubain ont déjà délaissé par le passé leurs équipes pour des contrats plus juteux ailleurs. Et puis on a appris la disparition d'Eric Carl. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est l'auteur d'un livre qui a bercé des générations d'enfants.
Ah oui.
La chenille qui fait des trous. Né aux États-Unis de parents allemands, il avait grandi dans l'Allemagne nazie qu'il avait qualifié de monde sans couleur. Il est mort à 91 ans après avoir coloré des vies de millions d'enfants.
Et c'était donc le journal de Jérôme Florin.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
Il est 8h13, Éric Dupond-Moretti va avoir l'occasion de répondre aux policiers. Le garde des Sceaux est attendu au ministère de l'Intérieur aujourd'hui pour une table ronde sur les relations police-justice dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Ça tombe bien, les syndicats de policiers répètent en boucle depuis le meurtre du brigadier Éric Masson à Avignon que la justice fait preuve de laxisme, que les peines prononcées contre les délinquants sont trop légères. On a voulu y voir un peu plus près avec vous Thomas Proutot. Bonjour Thomas.
Bonjour.
D'abord, est-ce que les juges prononcent de moins en moins de peines de prison ?
Alors non, bien au contraire, 132 000 peines d'emprisonnement ferme prononcées en 2019 contre 120 000 en 2015, c'est 12 000 de plus. Et si l'on compare le nombre de personnes incarcérées entre 1990 et aujourd'hui, c'est environ 25 000 de plus. Difficile donc de parler de relâchement face à la délinquance.
On vous a compris, beaucoup de peines donc, mais sont-elles réellement exécutées, Thomas ?
Alors c'est l'autre reproche, un récurrent fait à la justice, des dizaines de milliers de peines ne seraient jamais mises en œuvre. Ce n'est pas le cas. 97% des peines prononcées finissent par être exécutées. Le problème, c'est le délai, 5 mois en moyenne, ce qui veut dire qu'il se passe parfois plus d'un an avant qu'un condamné ne parte en prison, qu'on lui installe un bracelet électronique ou qu'il fasse un travail d'intérêt général. C'est oui. surtout vrai d'ailleurs pour les petites peines effectuées hors prison, car les aménagements eh bien, prennent du temps. Du coup, certains délinquants reviennent dans leur quartier sans sanction dans un premier temps, et cela donne une impression d'absence de réponse judiciaire.
Est-ce que la justice essaye d'y remédier ?
Alors oui, c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans les objectifs de la chancellerie, et plusieurs réformes ont été récemment décidées. Réduction à un an ferme du plafond au-delà duquel une peine n'est plus aménageable, création d'une agence nationale des travaux d'intérêt généraux, augmentation annoncée du nombre de magistrats, réforme de la justice des mineurs, mais les effets ne se feront pas sentir avant plusieurs mois.
Alors, dans le fond, pourquoi cette polémique récurrente et permanente avec des policiers ?
Eh bien, il y a un fossé culturel profond. Beaucoup de policiers considèrent que certains magistrats renâclent à prononcer des peines lourdes, qu'ils sont dans la culture de l'excuse, d'où la revendication de peines automatiques pour les agresseurs de forces de l'ordre, pour lesquels les juges n'auraient pas leur mot à dire. La chancellerie rappelle que l'expérience a été menée pendant 7 ans après 2007 et que cela n'a pas changé la moyenne des peines. Les magistrats rappellent aussi que les violences contre les policiers ont un taux de réponse pénale de 95%, c'est très élevé. Oui. Un conseiller du garde des Sceaux concède, il y a sans doute un gros déficit de pédagogie et de dialogue.
Merci beaucoup Thomas Proto. Dans un instant, notre bureau de vérification de l'information avec Jean-Mathieu Bernin et notre consultation quotidienne avec le bon docteur Simès.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h18, on traque les intox, les fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, non, les futures boîtes noires installées dans les voitures ne vont pas écouter nos conversations.
Eh oui, l'angoisse. Ouh. C'est des messages presque épidermiques hein, depuis oui. l'intérêt de nombreux médias pour l'installation d'une nouvelle sécurité dans les futures voitures. C'est l'avalanche de commentaires. Votés en 2019 par le Parlement européen, les véhicules neufs vendus en Europe auront l'obligation de comporter une puce électronique qui sera positionnée à un endroit inaccessible du propriétaire et sera impossible à désactiver. Selon le site L'Argus, elle sera chargée d'enregistrer 30 secondes avant et après un accident, je cite, les données cruciales, soit les éléments relatifs à la conduite, oui. la vitesse, l'accélération, le freinage, pendant la ceinture de sécurité, le GPS. L'idée, c'est d'établir les responsabilités en cas d'accident plus rapidement. Mm-hmm. Ça deviendra une obligation à partir du 1er mai 2022 et pour les véhicules d'occasion, ce sera pour mai 2024. Alors, surnommée boîte noire comme celle des avions, sa présence divise. On peut lire des messages comme « encore plus de contrôle oh, !» après le QR code des vaccins, la boîte noire des voitures, dictature, bon, pas de rapport, mm-hmm. mais ou plus surprenant. Alors, ce message sur Twitter, pourra-t-on choisir la couleur de sa boîte noire ? Voilà. Alors, il y a une crainte de voir ces conversations enregistrées. Et si cette boîte noire enregistre beaucoup de paramètres, elle ne s'intéresse pas aux conversations ni au téléphone, juste à la vitesse. C'est après tout le plus important.
Bon, un anonymat du conducteur garanti par la loi ?
Exactement, c'est l'article L1514-2 du Code des transports qui dispose ainsi que les données sont anonymisées par un procédé garantissant la suppression dit-il, irréversible du lien entre les données et le numéro de série ou taux identifiant du véhicule de son conducteur, propriétaire ou locataire. L'Europe ne fait que suivre l'exemple des États-Unis où toutes les voitures neuves vendues depuis le 1er novembre 2012 enregistrent la vitesse de rotation des roues et du moteur, la pression exercée sur la pédale ainsi que les coordonnées GPS. Alors comme l'explique le magazine Challenge, il y a eu cette même crainte d'extrême surveillance lors de sa mise en place aux États-Unis. Les autorités américaines estiment qu'il a permis de réduire de 20% les accidents en l'espace de 5 ans.
Est-ce que cela va augmenter le prix des voitures ou de l'assurance ?
Alors ça, c'est encore le grand flou. Hein, parce que si certains constructeurs ont annoncé que la mise en place de ce nouveau dispositif pourrait impacter le prix d'achat, tous ne sont pas sur la même ligne. Même chose pour les assureurs. Si vos données sont enregistrées, ça devrait inciter quand même à lever le pied. Mais comme l'explique le journal Le Parisien, en Italie où ce système est mis en place, il y a eu une baisse de la prime sur le long terme. En France, les assureurs n'ont pas assez de recul. Voilà, juste de quoi alimenter un débat qui pourrait encore durer, donc 12 mois. En fait.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. Nous allons retrouver Michel Simès dans un instant sur RTL.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour cher Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous faites l'écho d'une publication du journal Prescrire. Ça concerne les femmes enceintes qui prennent des complants alimentaires iodés.
Oui, alors je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je mets directement les pieds dans le plat. Aucune étude n'a scientifiquement démontré l'intérêt des compléments alimentaires iodés pour les femmes enceintes. Voilà, ça c'est dit. C'est dit, écrit et publié par la revue médicale Prescrire. Croyez bien que si elle avait la preuve du contraire, elle ne se priverait pas de nous la sortir. Tout ça, C'est important de le dire parce que les femmes enceintes croulent sous les sollicitations, ce qui peut les conduire à douter quand il n'y a aucune raison de douter. Un jour, on les met en garde contre la carence en iode. Le lendemain, on leur propose des cocktails vitaminés où l'on trouve de tout, de l'iode, de la vitamine B9, du cuivre, du zinc, du magnésium, bref, tout ce dont elles ont besoin.
Si elles en ont besoin, c'est plutôt une bonne chose, non ?
Ce qui serait une bonne chose, c'est que les femmes enceintes aient une alimentation équilibrée. Franchement, l'iode, je préfère que vous alliez en chercher dans les produits de la mer, les œufs ou les produits laitiers, plutôt qu'à la pharmacie ou pire sur Internet. Ou alors en allant vous balader au bord de la mer. Pour le reste, je rappelle qu'on est en France, un pays où, selon l'Organisation mondiale de la santé, la carence en iode est légère. Ça signifie qu'il n'y a aucun intérêt à se supplémenter en cas de grossesse. Ça peut même être dangereux.
À quel risque pensez-vous et selon quel mécanisme, Michel ?
Alors, si vous n'avez pas spécialement besoin d'iode et que vous vous supplémentez, vous aurez peut-être trop d'iode. Et le trop d'iode, quand on est enceinte, c'est mauvais pour l'enfant que vous attendez. Il peut naître avec une hypothyroïdie, un goitre, des problèmes d'audition, voire des troubles du développement intellectuel. Donc, si vous pensez devoir booster votre apport en iode, ne vous jetez pas sur les compléments alimentaires dans un élan d'automédication. Ouvrez-vous-en à votre médecin traitant pour qu'il évalue en tenant compte de votre alimentation si vous en avez réellement besoin. D'une manière générale, je dirais, quand vous êtes enceinte, attention à tous les compléments alimentaires. Cette mise en garde, c'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui nous la répète, avec une régularité de métronome. Régulièrement sont signalés des effets indésirables liés à la consommation de suppléments alimentaires iodés ou contenant de la vitamine D. Parce que la vitamine D, c'est l'autre produit vedette des champions du marketing qui cible les femmes enceintes et malheureusement, par ricochet leur futur bébé, même si elles n'ont besoin de rien.
Merci Michel Simès, on se retrouve demain matin sur RTL.
À demain.
Dans un instant, nous allons retrouver l'interview de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Il s'est confié à Philippe Sanfourche, depuis Clairefontaine, sur la préparation des Bleus pour l'Euro de football. Et évidemment, on a envie de tout savoir et de tout entendre. Ça se passe sur RTL. Nous vous souhaitons une excellente journée. Il est 8h23.
RTL Matin. Toujours avec vous.
Calvi.
RTL Matin.
Il est 8h27, les Bleus démarrent donc leur session de préparation en vue de l'Euro de football qui démarre le 11 juin prochain. Les Bleus affronteront l'Allemagne dès le 15 juin à Munich. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est confié hier à RTL. On vous retrouve Philippe Sanfourche, bonjour.
Bonjour Yves, oui, entretien réalisé hier après-midi à Clairefontaine, donc quelques heures seulement après l'arrivée des joueurs. Le premier déjeuner en groupe, les retrouvailles pour certains, la découverte pour d'autres de Karim Benzema. C'est le vrai coup d'envoi de l'aventure, 20 jours de préparation sous cloche sanitaire, sans aucun droit de sortie pour ce groupe champion du monde qui rêve maintenant d'un doublé avec l'Euro.
Allez, on a hâte, nous découvrons tout de suite votre entretien avec Didier Deschamps.
Bonjour Didier Deschamps.
Bonjour.
Il y a comme un parfum de rentrée des classes, est-ce qu'avec les années, on s'habitue ou est-ce qu'il reste un petit stress qui peut même être positif ?
Stress, c'est négatif. Non, c'est excitation, plaisir. C'est le début de l'aventure, en espérant qu'elle soit le plus long possible. Mais c'est un passage important, déjà pour le staff, même si on travaille depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis l'arrivée des joueurs qui matérialise le départ de la préparation.
Alors ça fait une semaine que la France ne parle quasiment que de ça, le retour de Karim Benzema. Est-ce que les joueurs aussi vous ont appelé et depuis leur arrivée à Clairefontaine, est-ce qu'ils sont interrogatifs ? Est-ce qu'ils vous assaillent de questions ?
Vous êtes bien curieux. Je vous ai dit, quand je dis quelque chose, c'est pas une version, c'est la vérité. Je n'implique pas les joueurs dans la sélection ou la non-sélection d'un joueur. Donc je considère que c'est pas leur rôle, comme c'était pas le mien et ça ne l'a pas été quand j'étais joueur. Donc à partir de là, voilà, ils se sont retrouvés aujourd'hui, ils se connaissent, ils se sont croisés, même s'ils ne se sont pas retrouvés avec Karim ici à Clairefontaine. Ça s'est passé normalement, c'est pas un événement dans l'événement. Après, je peux comprendre que
beaucoup l'ont commenté sur les réseaux sociaux, dans les médias. Ça veut dire que c'est un événement quand même dans la vie de groupe. Est-ce que vous allez en parler individuellement, collectivement ?
Pas du tout.
Vous allez l'aborder comment ?
C'est un non-événement. Non pas que je ne veux pas minimiser ou accorder plus d'importance à Karim, mais lui, il ne le souhaite pas non plus. Il fait partie d'un groupe où il y a des joueurs qu'il a connus sous ce maillot aussi. Il y en a des nouveaux. Voilà, ça va se faire naturellement. De vouloir, moi, individuellement ou collectivement, parler de ce sujet, c'est en faire un sujet. Pour moi, ce n'est pas un sujet. À partir du moment où j'ai décidé, j'ai bien réfléchi, c'est que vous me connaissez un peu quand même, mais que j'ai bien mesuré que par rapport au groupe, ça allait se faire normalement et naturellement.
Sportivement, ça va changer la donne. En attaque, un garçon comme Antoine Griezmann, qui est le meneur de jeu de cette équipe depuis des années, est-ce que le retour de Karim Benzema va l'obliger à changer de poste ou tout simplement sa façon de jouer?
C'est une question déguisée, ça, non? Et je pensais bien que je discute pas mal, on réfléchit. Évidemment, il y aura peut-être des aménagements, mais c'est pas pour... Moi, j'ai toujours le même objectif. Et je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est de mettre autant que possible chaque joueur dans sa meilleure position. Voilà, après, il y a des compensations à faire, mais c'est pas donner tout à un pour enlever à l'autre. Ça sera Karim et un leader technique lui aussi. C'est pas un problème d'avoir plusieurs leaders. On va pas parler que d'Antoine, parce que j'ai 8 joueurs offensifs. Donc il y a des associations qui peuvent être différentes en début de match, en cours de match, avec des joueurs polyvalents. Voilà, le seul truc, c'est la réalité. Bon, le temps est réduit, puisque les jours de préparation sont de plus en plus courts. C'est factuel. La première compétition, c'est-à-dire la Coupe du Monde au Brésil, on avait eu pas loin de 30 jours de préparation. Aujourd'hui, on est à 20. Donc il y a 10 jours en moins. On s'adapte, ce qui veut dire en moins de séances. Mais je le répète, quand il y a la qualité et l'intelligence qu'ont les joueurs, ces joueurs-là de haut niveau, ça doit nous permettre de gagner du temps, même si j'ai bien conscience que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc il y aura de la réflexion, de l'analyse par rapport à ce qui se passe.
Pour que cette préparation soit optimale, il faut évacuer les soucis qui peuvent perturber, comme les questions de transfert. Kylian Mbappé, par exemple, doit-il être fixé sur son avenir en club avant le début de cet Euro?
Il n'y a aucun ordre. Ce qu'il ait la tranquillité et la sérénité. Il l'a. Il a un choix de carrière à faire. Il prendra sa décision quand lui le décidera. Dans l'idéal, si on ne veut pas... dans un monde idéal, que tout le monde, tous les joueurs qui sont ici, les 26 présents, sachent où ils seront l'année prochaine, il y en a peut-être qui pensent savoir et que ça peut être amené à modifier, ou avant, ou pendant.
Merci beaucoup, Didier Deschamps.
Avec plaisir.
Et merci à vous qui nous écoutez. Il est 8h32. On va retrouver dans un instant Louis Bonin pour notre météo à 7 jours.
Je veux.
Les perspectives sont très agréables.
Très bonnes.
À tout de suite.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Steven Bellery.
Laissez-vous tenter.
Ce matin, journal musical éclectique avec des extraits des répétitions du concert unique de Laurent Gérard et Eddie Mitchell qui sera diffusé ce soir en streaming. Le chanteur Icar revient avec Tatoué et Vianney a ramené d'Éthiopie une chanson inédite. A tout à l'heure, 9h dans Laissez-vous tenter.
Ne bougez pas, laissez-vous tenter, c'est dans 30 minutes sur RTL.
RTL Matin.
Alors Louis Baudin, on va s'intéresser à notre météo à 7 jours. Elle va être formidable et je précise, ça tombe bien qu'à l'instant même, le ministre de l'économie Bruno Le Maire souhaite que les soldes débutent le 30 juin. Voilà, solde a priori annoncé pour le 30 juin par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors venons-en à notre météo dans les 7 jours à venir.
Nous n'attendrons pas le 30 juin pour retrouver du beau temps. Ça va commencer demain où on va avoir un temps sec et ensoleillé partout. L'anticyclone s'installe, champagne dorsale. Enfin, tous les ingrédients sont là donc pour qu'on ait ce temps sec et ensoleillé. Du coup, les températures vont en profiter pour grimper. Pour la première fois, elles seront largement de saison, voire au-dessus dans la moitié sud, puisqu'avec ce soleil, encore un peu de fraîcheur le matin, autour de 10 degrés, mais l'après-midi, on dépassera les 20 degrés dans la moitié nord, ça y est, jusqu'à 22-23 degrés. Et dans le sud, nous serons souvent aux alentours des 25 degrés, voire un peu plus près de la Méditerranée, ou parfois autour de la vallée de la Garonne. Et ce temps sec et ensoleillé va nous accompagner pour le week-end, samedi, dimanche, lundi, mardi, avec du temps sec et ensoleillé
On surveillera peut-être en début de semaine un petit risque d'orage sur les reliefs des Pyrénées ou encore des Alpes en fin d'après-midi. Oui. Tout ça parce qu'effectivement, la chaleur pourrait bien se renforcer dans le sud, avec souvent plus de 25 degrés. Les 25 degrés que l'on pourrait peut-être atteindre pour la première fois dans la moitié nord, très localement.
Merci beaucoup de toutes ces informations, cher Louis. À demain matin. Oui. Nous, on va s'intéresser maintenant à l'Association des paralysés de France qui s'est lancée dans un véritable challenge.
RTL, vous êtes comme ça.
Et nous allons vous parler ce matin du projet Rampego. Depuis plus de 6 mois maintenant, l'Association des paralysés de France s'est lancée un véritable challenge. Les bénévoles de Charleville-Mézières construisent des rampes d'accessibilité en Lego. Des rampes amovibles et gratuites pour des commerces non équipés, d'où le nom de Rampego. Les petites briques colorées sont recueillies via des dons qui arrivent de toute la France. Agnès Bonfillon, vous vous êtes rendue dans la délégation des Ardennes.
Tout commence par le tri des Lego. Les briques sont rangées par couleur, par taille. Une étape cruciale, alors que Pascal et Manu, eux, s'occupent ensuite de l'assemblage.
C'est pas difficile, hein, mais c'est assez long, quoi. Dans cette rampe-là, c'est juste une marche, elle fait 4 cm de haut, on a 1500 pièces à peu près. Dans l'autre, là, 15 000 pièces.
Combien d'heures ça vous prend pour faire une rampe comme ça?
C'est pas facile à dire, hein. 20-30 heures. Vous voyez, j'ai 60 ans, je commence à jouer au Lego.
En fait, Manu et les autres bénévoles de l'APF Champagne-Ardenne s'y sont remis à l'automne dernier, après avoir découvert cette initiative en Allemagne. Ils se sont dit, pourquoi pas nous? Se sont lancés. Mais au fait, les Lego, c'est du solide?
Très très solide. Les pièces, elles sont collées entre elles. C'est une colle polymère, quoi. Elle dissout un peu le Lego et il se colle à vie.
Un travail minutieux. Tandis que le pistolet à colle fonctionne à plein régime, Emmanuel Pascal, chargé du développement de l'association, a le sourire en regardant cette nouvelle rampe colorée prendre forme.
Une rampe en Lego, ça attire l'œil. Les gens ils vont se retourner, vont faire une photo, ça va cogiter. Donc on peut apporter un message aussi d'une solution pérenne en disant on voit bien que c'est compliqué pour vous, il y a un frein financier, il y a un frein d'information. Mais vous savez, nous on est là aussi pour vous aider.
Pour aider et surtout ne pas culpabiliser les très nombreux commerçants qui ne sont pas aux normes.
On ne pense pas toujours à l'accessibilité, c'est pas une honte non plus de le dire. Nous on souhaite vraiment pouvoir mettre en avant quelque chose de positif par ce projet-là.
Ça veut dire que les auditeurs qui sont en train de nous écouter, qui disent « Ah, ça tombe bien, j'ai une caisse de Lego dans mon grenier ou dans ma cave », est-ce qu'on vous les envoie directement ou est-ce qu'on se rapproche de l'APF, de notre département?
Alors les deux sont possibles. Il y a des personnes adultes qui ont mis des Lego au fond de leur placard, donc ils se disent « Tiens, ça fera de la place, autant les donner pour une bonne cause ». Et puis il y a aussi des écoles qui s'investissent dans le projet.
Un joli cercle vertueux qui se met en place.
Et Agnès, certaines de ces rampes sont déjà installées. Hein.
Oui, dans le quartier piéton de Charleville-Mézières, tout près de la place du Cal, Agnès, la patronne du bar La Bonbonnade, est l'une des premières bénéficiaires. La rampe colorée, amovible, est installée depuis un mois maintenant. Ça change tout, car avant, les clients en fauteuil...
On les portait, voilà. Au moins, ils pourront aller sans moi aux toilettes. Mes clients handicapés qui ne venaient pas trop l'hiver, parce que c'est l'hiver, et puis il y a des marches partout chez moi, mais au moins, je les aurai l'hiver.
Et même en été, il suffit qu'il pleuve, comme l'explique Richard Perrotin, client régulier, mais aussi bénévole de l'APF.
Pouvoir quand même profiter d'un bar quand la météo n'est pas agréable, c'est vrai que c'est quand même pratique. Je prends l'exemple actuellement des gens qui font la queue dehors à 1m50 l'un de l'autre sous la pluie lorsqu'ils doivent aller chez leur boulanger. C'est un peu ce que vivent les personnes handicapées tout le long de l'année. Donc notre priorité, c'est l'accessibilité.
Et avec Rampego, une jolie dynamique se met en place, comme le souligne Emmanuel Pascal.
Il y a des belles choses qui arrivent tous les jours, et des dons, des partenariats. C'est une belle aventure qui commence et on a hâte de pouvoir continuer.
Trois nouvelles rampes sont en construction. Les points de collecte, eux, se multiplient partout en France.
Si vous aussi, vous avez des Lego à donner, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site APF France Handicap.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40, nous sommes parfaitement à l'heure et ce matin Isabelle Choquet, c'est donc une face cachée à haut potentiel intellectuel. Nous parlons des surdoués et du business qui va avec. Hein.
Oui, vous savez combien il y a de surdoués en France, Yves? Des gens avec un quotient intellectuel supérieur à 130?
Aucune idée.
2,3% de la population. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. Et pourtant, les consultations, les livres, les coachings pour gros cerveaux se multiplient. J'ai lu ça dans l'Express. Prenez Kevin. Il a répondu à un questionnaire sur Internet. internet et il a découvert qu'il était zèbre. C'est comme ça qu'on appelle les surdoués aujourd'hui. Il échange sur l'un des 70 groupes Facebook consacrés au sujet qui compte plus de 9000 membres et il se demande si sa fille ne serait pas aussi un zèbre. Pourquoi ? Parce qu'elle lui a parlé de la mort et du fait qu'elle avait sans doute été un écureuil dans une autre vie. Et oui, tous surdoués, tous convaincus de l'être. Actuellement, dit un psy pour enfants, il y a quasiment 70% des gamins pour lesquels en consultation est évoquée l'hypothèse du HPI, y compris chez ceux qui sont déficients. Une tendance qui est née en partie avec un livre « Trop intelligent pour être heureux » de Jeanne Siaud-Fachin. 240 000 exemplaires vendus. La psychologue explique notamment que le surdoué se caractérise par une sensibilité, une émotivité, une réceptivité affective, des traits de personnalité assez vagues finalement, pour que tout le monde s'y retrouve. Oui. TF1 surfe sur la vague, la série HPI avec Audrey Fleurot tutoie les 10 millions de téléspectateurs et de plus en plus de psys se spécialisent. Sur Doctolib, 16% proposent désormais des tests de QI. Entre 200 et 600 euros le test, c'est un bon filon. D'ailleurs, certains ne s'en cachent pas, je me suis lancée là-dedans parce que je savais qu'il y avait de l'argent à se faire, dit Michel. Depuis le deuxième confinement, la fréquentation de son cabinet a explosé. Les gens se posent plus de questions sur eux-mêmes. Parfois, il m'arrive de faire 4 tests par semaine, c'est le double de ce que je faisais avant. Jeanne Siaud-Fachin, elle, a fondé en 2003 les centres Cogitose, des structures spécialisées dans le HPI. Elle propose une formation de 3 jours à 690 euros pour accompagner les surdoués. Un ancien patient en garde un mauvais souvenir, des rendez-vous très étalés et pour l'entretien final, une simple lecture des résultats de tests. Il a consulté 2 autres psychologues qui ont trouvé le compte-rendu très générique et qui lui ont appris qu'en fait, il est autiste. Une ancienne psy de Cogitose confirme « Ma responsable écrivait à ma place, en fait, il y avait des phrases copiées-collées. » Sur le net, c'est carrément la grande foire au n'importe quoi. On voit fleurir les coachs spécialisés, évidemment sans le moindre diplôme, qui proposent des tests ou une détection de douance en ligne à 280 96 euros. Mais une psy le rappelle, en dehors de la curiosité, il n'y a pas d'élément de personnalité typique chez le HPI. Allez donc dire ça à Raymond Dazan, psychanalyste autoproclamé surdoué, qui donne des conseils sur sa chaîne YouTube, suivie par plus de 22 000 personnes. Des trucs du genre, la seule chose avec laquelle vous pouvez ouvrir toutes les portes en tant que surdoué, c'est la clé du cœur. Elle propose une détection du haut potentiel par téléphone, 120 euros les 45 minutes, ou 1h30 de vidéo pour bien vivre sa surdouance à 349 euros. Et évidemment, elle rejette les tests de QI qui sont, dit-elle, conçus par des gens qui ne connaissent rien, ce qu'elle appelle les normaux pensants.
Oui, c'est nous ça.
Mais évidemment, les sectes ne sont pas très loin, Yves, comme l'organisation Ashram Shambhala, proche du mouvement des enfants indigos. Alors dans ce mouvement, certains gamins considérés comme supérieurs devaient être éduqués en vue de développer leur haut potentiel, vous imaginez la suite. Bref, dans le petit monde de la surintelligence, il y a surtout beaucoup d'attrape-nigauds. Le business des surdoués, enquête à lire dans l'Express qui sort aujourd'hui.
Bon, bah, grâce à vous, on ne dépensera pas d'argent à essayer de se
convaincre. Nous sommes très normaux pensants,
voilà,
je crois.
Très normaux. Et c'est une bonne chose. On vous retrouve demain matin avec grand plaisir. Merci Isabelle Choquet. Laurent Gérard et toute son équipe de surdoués sont avec nous dans un instant.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Quelques mois après l'envoi par les Américains du rover Perseverance sur Mars, les Chinois viennent de réussir à leur tour à y poser le rover Suhong. Bonjour Jean-Pierre Raffarin, ou plutôt devrais-je dire Ni Hao Ting Bin Fong, Jean-Pierre Raffarin.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Vous êtes fin connaisseur de la Chine. Alors selon vous, pourquoi les Chinois envoient à leur tour un rover sur Mars ?
Pour montrer aux Américains qu'ils peuvent rivaliser avec eux sur tous les terrains. Comme l'a très bien souligné Bruce Lee Toussaint sur BFNM TV. Ah. Partout où il y a des Amerlocs, faut compter avec les Chinois.
Et en dehors de la conquête spatiale, où les Chinois vont-ils chercher à rivaliser, selon vous ?
Les Chinois sont désormais au niveau des Américains dans tous les domaines, sauf un, l'obésité. Ah oui. Et c'est le principal défi que va chercher à relever Xi Jinping dans les prochains mois. Rendre les Chinois aussi gros que les Américains en les gavant de cheeseburger XXL.
Ah bon ? Mais quel intérêt ?
Je crains qu'il ne soit pas très glorieux, Mademoiselle Jeanne. Oui. Comme l'a très bien résumé la philosophe féministe Suzy Wan dans les colonnes de Libération. C'est juste un concours de zizi entre les Nouaches et les Yankees.
Oui, certes. Et selon vous, qui remportera le concours ?
Difficile de le savoir. Mais comme l'a très bien dit le journaliste Pascal Prong sur la chaîne Sénouille, avec sa clairvoyance habituelle. Oui. Quand on fait un concours de zizi, mieux vaut défier les USA que le Mali.
Le nouveau président américain Joe Biden semble être devenu le nouveau héros de la classe politique française, au point que l'on parle de Biden-mania. Faisons le point sur ce phénomène inattendu avec notre spécialiste des USA. Bonjour John Rambo.
Attends, arrête.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Ta musique, ça dépend. Causer de Trump, mais ça va pas du tout pour Joe Biden.
Bon bah d'accord, on va vous mettre autre chose de plus sympathique.
Non, pas ça, arrête, j'en veux plus, c'est trop dur.
Bon allez, reprenez-vous John Rambo, qu'est-ce qui vous prend, c'est quand même très entraînant, et puis vous devriez vous réjouir. On pensait que Joe Biden serait trop mou, trop vieux, trop centriste, et puis finalement, il a l'air de gouverner. Vous regrettez tant que ça Donald Trump à la Maison Blanche?
C'était le montant du temps de Trump.
Oui.
Le matin en se levant, on ne savait jamais ce qui allait se passer. Un coup, il voulait attaquer la Chine, une autre fois l'OTAN ou le Capitole. Une fois, il a même voulu envoyer un missile sur les bureaux de CNN et sur la cérémonie des Oscars à Hollywood.
Ah, oui.
Et puis quand il perdait au golf, il engueulait Mélania, le secrétaire général de l'ONU. On se marrait bien avec Donald.
Mais quand même, ça doit être plus facile à gérer, quand même, la protection de Joe Biden.
Tu peux pas comprendre. T'as jamais été en mission avec Joe Biden et sa femme prof d'anglais?
Ah non. Allez-y, bah racontez-nous, John Rambo. Vous savez que ça vous soulage en général, et nous aussi.
L'autre jour, mon pote Bobby et moi, on était affectés à la sécurité du président Biden à Border Force One. À peine assis, Joe Biden, il s'est endormi la bouche ouverte. Alors mon pote Bobby, pour déconner, il lui a piqué son dentier et il l'a remplacé par des dents de Bugs Bunny. Alors après, le président, il s'est réveillé et il a demandé à sa femme Jill « Quoi de neuf, chérie ?» Mais la femme à Sleepy Joe, elle était furax. Elle a pris la tête à Bobby avec les droits de l'homme. Elle lui a fait écouter du John Baez. Alors Bobby, il a craqué, il s'est mis à chialer comme un môme, tu te rends compte?
Oui.
Un type des forces spéciales qui avait le Vietnam. Je peux pas m'enlever ça de la tête, colonel.
Oh non, John Rambo, c'est pas si grave que ça quand même.
Si, c'est grave. Parce que depuis ce jour-là, Bobby, il a chopé la bidémania. Et toute la journée, il chantonne ça. Oh non, pas ça.
L'Institut du monde arabe a rouvert ses portes depuis mercredi dernier avec Diva, une exposition sur les chanteuses de l'âge d'or du monde arabe. Son directeur est avec nous. Bonjour Jack Lang.
Bonjour, c'est Jack.
Oui. Oui, c'est bon. Vous chantez bien.
Merci, Félicie. On m'a déjà dit que j'avais un bel organe. Mais je ne suis qu'un infime vermisseau à côté d'Oum Kalsoum.
Oui.
Laïla Mourad.
Oui.
Fatem Amama. Samia Gamal. Et autres divas auxquelles je rends hommage dans cette exposition à la gloire de la sensualité saharienne.
Oui.
Fais-moi le couscous, Cyril. Fais-moi le couscous. Fais-moi le couscous, Cyril. Lénia, fais-moi le couscous.
Selon vous, quel est le point commun entre toutes ces divas?
Eh bien, dans le contexte des pays arabes d'après-guerre, elles furent toutes des icônes féministes.
Oui.
Un peu comme Camélia Jordana ou Wieselt.
Oui.
Mais avec un petit quelque chose, un plus, Artus.
Oui. Et comment définiriez-vous ce petit quelque chose en plus?
C'est simple. C'est ce qu'on appelle le public.
Ah.
C'est-à-dire des gens qui vous aiment, qui achètent vos disques et assistent à vos concerts. C'est chié, non?
Bon alors, puisque je vous tiens, un petit mot sur la fête de la musique. On a appris qu'elle aurait bien lieu cette année, le 21 juin, avec un couvre-feu à 23h. Et je rappelle que vous en êtes l'initiateur.
En effet, je l'ai lancé en 1982. 39 ans déjà.
C'est vrai.
Mais elle est comme moi, elle n'a pas pris un cheveu blanc.
Oui.
Merci Jean-Louis David. Et je remercie mon amie Roselyne Bachelot de l'avoir maintenue cette année.
Mm-hmm.
Après des mois de confinement, les Français seront ravis de faire la fête. En écoutant, comme chaque année, des élèves de CM1, Madame Chamoulot, reprendre les chansons d'Anne Sylvestre à la flûte à bec. Mais aussi des saxophonistes inspirés, massacrant The Girl from Ipanema. Des rappeurs bruyants, hurlant leur mal-être sous vos fenêtres. Des adeptes de Pierre Boulez. Des oui. Craspouilles en sarouel tapant sur des djembés. Mais quelle belle fête en perspective.
Oui, alors on le rappelle avec masque obligatoire, précisons-le.
Qu'à cela ne tienne, Étienne. Nous irons au bal masqué, oh et oh et au bal masqué. Hey bébé, allez.
Ah, décidément, notre ami Benjamin Castaldi joue de malchance. Quoique vacciné, il a quand même contracté le Covid. Bonjour Benjamin Castaldi, on espère que ça va mieux. Ah oui, c'est bien vous.
Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, l'ancien animateur qui en a ras-le-bol des vaccins et qui ne marche pas. Je tiens à rassurer tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai pris ma température avec ma perche à selfie.
Oh non.
Je suis un petit 37, donc ça va mieux.
Nous voilà rassurés. Vous étiez pourtant vacciné, n'est-ce pas ?
Oui, j'étais vacciné à l'AstraZeneca, mais en m'apportant le plateau de mon partenaire minceur, comme j'aime, le livreur a éternué dessus.
Mais quelle horreur ! Mais il ne fallait pas le manger ?
Ah, vous êtes marrant, il ne fallait pas le manger. Si, parce que j'ai signé un contrat de 500 000 boules. Hein. Même avec ce qu'il a éternué dessus, je vais manger ma barquette de carottes râpées.
Oh non ! Changeons de sujet, si vous le voulez bien. Vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux au sujet de ce vaccin qui ne vous a pas assez protégé.
C'est pour ça que pendant ma maladie, au lieu d'écrire un nouveau livre sur mon papiquetta et ma mamie cocu, j'ai mis au point un nouveau passe. Un nouveau passe pour éviter la contagion. Je l'ai appelé le passe frigidaire Castaldi.
D'accord, original. Il est efficace contre l'épidémie ?
Très efficace. C'est un passe personnel qui permet d'ouvrir le frigidaire. Avec le passe frigidaire, vous êtes sûr que personne ne vient manger dans le frigo votre salade de pâtes à la mayo pendant que vous avez le dos tourné. Comme ça, vous n'attrapez pas la maladie des autres par la bouche.
Très astucieux ce passe frigidaire. Merci Benjamin Castaldi.
Et je travaille aussi sur un passe camembert, un passe pomme de terre, un passe choucroute.
Oui, oui, bah ça va. Merci.
Alors, on vous retrouve ce soir pour un programme exceptionnel en streaming sur MyCanal. C'est votre concert à crédit et en stéréo avec Eddie Mitchell. Les deux compères réunis pour une soirée événement. Ça sera sans masque, sans distanciation, puisqu'on pourra tous profiter de cette soirée exceptionnelle. Et Steven Bellery nous explique tout cela dans Laissez-vous tenter dès 9h. Dans un instant, on va retrouver Cyril Lignac. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin, Yves Calvi.
Et un grand bonjour à Cyril Lignac qui répond chaque matin, mais oui, avec célérité aux questions de nos auditeurs. Pour vous demander conseil, rendez-vous sur rtl.fr/participer. Alors ce matin, c'est une question de Corotin. Coco, il vit en région parisienne et il aimerait bien que vous l'aidiez à réaliser un dessert à base de papaye. Je vous écoute.
Alors déjà c'est pas facile parce que la papaye c'est plutôt un fruit exotique que l'on mange comme ça avec de la mangue, du fruit de la passion. Parce que c'est un fruit qui est quand même hyper moelleux. Donc pour le mettre dans un dessert c'est assez compliqué. Donc là j'en ai fait comme un flan un peu onctueux et crémeux. Donc j'ai pris une papaye, alors de préférence pas trop mûre, que je coupe en gros dés. Je les fais cuire dans de l'eau bouillante, je les goûte, ensuite je la mixe dans mon blender pour en faire une purée.
Ah, on la réduit en purée, donc, la papaye.
Et oui, parce que sinon, soit on la mange fraîche, et à ce moment-là, bien mûre, on enlève les pépins au milieu, soit sinon, pour la mettre dans une pâtisserie, c'est un peu compliqué. Donc, j'ajoute 2 œufs, 140 g de farine, de sucre, pardon, 50 g de farine, 20 g de beurre, 70 ml de lait, et là, je mélange tout ça, ça va me donner une pâte assez liquide et moelleuse. Alors, j'y ajoute du jus de citron vert pour avoir un petit peu d'acidulé.
Un peu de peps.
Voilà, je beurre le moule, je verse à l'intérieur et je cuis au four à 180 degrés jusqu'à ce que le gâteau soit bien moelleux et coloré.
Et ben voilà, je crois que vous avez rempli votre mission, c'était charmant.
C'est pas facile.
Est-ce qu'on met une pincée de sel ou pas du tout ?
Alors, on peut mettre un petit peu de fleur de sel, ça va basculer entre l'acidulé, un petit peu de sel, ça marche bien.
C'est bien ce qui me semblait. Je vous remercie et je vous dis à demain. On retrouve tous les détails de votre recette sur le site rtl.fr. RTL, il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point de l'actualité avec Jérôme Florin. Emmanuel Macron est arrivé au Rwanda pour tenter d'apaiser les tensions diplomatiques entre Paris et Kigali. Un quart de siècle après le massacre des Tutsis, il doit prononcer un discours au mémorial du génocide. Au cours des prochaines heures, nous allons écrire ensemble une page nouvelle de notre relation, déclaré cette nuit sur Twitter le chef de l'État, deuxième président français à se rendre sur place après Nicolas Sarkozy. Bruno Le Maire souhaite décaler les soldes d'été au 30 juin au lieu du 23. Le ministre de l'économie ne veut pas aller au-delà. Ils avaient démarré l'an dernier mi-juillet et le succès n'avait pas été au rendez-vous. Airbus va produire davantage de petits avions qu'avant la crise sanitaire. Le constructeur s'adapte à la nouvelle donne. Plus d'appareils monocouloirs A320 et A220. Les cadences de production se sont effondrées de 40% depuis le début de l'épidémie. Le laboratoire français Sanofi annonce le lancement de ses essais à grande échelle de son projet de vaccin anti-Covid qui doit être disponible à la fin de l'année. Essai développé avec le britannique GSK. Et puis son départ devrait être officialisé dans les heures qui viennent. Cette fois, c'est pour de bon. Zinedine Zidane va quitter le Real Madrid. Le club a récemment cédé sa couronne de champion d'Espagne à l'Atlético Madrid.
Merci beaucoup Jérôme Florin, les 9h.